Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
C'est Julie Gerbet du podcast À Poil et avant d'écouter votre épisode, j'aimerais partager avec vous, mes chers auditeurs, restaurateurs, entrepreneurs, dont l'emploi du temps est millimétré et les finances mises à mal par l'inflation, ma découverte d'une solution assez idéale, je dois dire, en cas de besoin express de cash. Lancée par BPI France, la banque d'investissement française soutenue par l'État, les prêts flash permettent d'emprunter en deux temps trois mouvements, en ligne et sans paperasse superflu, jusqu'à 75 000 euros, avec un déblocage des fonds en 7 jours. Rénovation énergétique, innovation, développement marketing ou renfort de trésorerie, tous les besoins sont bons. Alors rendez-vous sur flash.bpifrance.fr. Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet, la créatrice et hôte de ce podcast qui est désormais intégrée à La Relève, l'agence food créative que j'ai cofondée en 2020, spécialisée dans les projets culinaires, les partenariats et le management de chefs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Victoria Effantin et Cécile Kate, le duo derrière Mamiche.
Pour recontextualiser, c'est que l'industriel à cette époque-là, il était vraiment ancré dans la boulangerie. Parce qu'en fait, le métier de boulanger est tellement difficile que l'industriel s'est inséré pour faciliter la vie des boulangers, pour qu'ils démarrent peut-être 2 heures plus tard et qu'ils se soient beaucoup moins physiques. Donc les boulangeries, on va dire, j'ai plus le pourcentage en tête, mais c'est énorme. Je crois que c'est 80% des boulangeries font pas leur viennoiserie maison, qui choisissent sur catalogue. Maintenant, il y a même sur les catalogues la viennoiserie, comment ils appellent ça ?
Irrégulière.
Irrégulière, pour faire croire que c'est fait maison. On l'a vu, nous, sur des catalogues. Et genre, les farines qui sont toutes prêtes avec la levure à l'intérieur chimique, ils rajoutent full gluten pour que ça aille plus vite. C'est pour ça qu'il y a des allergies au gluten, enfin, ou des intolérances. Et du coup, je pense que, effectivement, nous, on est arrivé vraiment quand l'industrie, elle était au top de sa forme, quoi. Et les gens croyaient pas au fait de revenir en arrière, de retravailler du levain, de refaire la viennoiserie maison, même le mot tourrier. Ça n'existait plus sur les annonces qu'on postait. Les gens savent pas ce que c'est qu'un tourrier. Un tourrier, c'est quelqu'un qui fait la viennoiserie. Mais parce qu'en fait, ce métier avait complètement disparu à cause des industriels, quoi. Donc, je pense que le contexte aussi n'aidait pas à notre idée de commerce qu'on voulait lancer.
Avec leur boulangerie de quartier Mamiche, Victoria et Cécile relèvent au quotidien un défi de taille. Travailler de façon manuelle et artisanale dans un milieu dominé par l'industrie. Dans leurs 2 adresses parisiennes et maintenant chez Mamiche Traiteur, leur nouveau commerce de proximité où acheter des sandwichs addictifs et des bons plats préparés, elles ne cessent de redonner du sex-appeal à un milieu qui en manquait cruellement. Chez elles, chacun loue son crush. Le chou à la crème pour certains, la babka pour d'autres, ou encore le Mac Mamiche, et pour moi, les toutes simples et d'un goût brioche à la fleur d'oranger. Des petits plaisirs qu'on peut s'offrir quotidiennement, aussi délicieux qu'accessibles, et qui cachent, elle le raconte dans l'épisode, un énorme travail derrière. Avec Victoria et Cécile, nous avons parlé de naïveté, d'idées marketing et de miche évidemment. Bonne écoute! Bonjour Cécile et bonjour Victoria.
Bonjour.
Bonjour.
En tant que voisine, je viens vraiment très souvent chez Mamiche et chez Mamiche Traiteur, le nouveau bébé. Et je suis pas la seule hein, avec les queues qu'on voit en passant. Quelle drogue mettez-vous dans vos croissants?
Ah ça c'est une bonne question, mais je crois qu'on a la réponse. Hein.
Ouais, bah oui, du beurre. Ouais, du beurre.
Beaucoup de beurre.
Ouais, c'est ça le secret, c'est le beurre.
Vous êtes toutes les deux issues d'une formation marketing et communication. Et comment est-ce que vous êtes arrivées dans la boulangerie ?
C'est une bonne question. En fait, Cécile et moi, on travaillait dans des grosses entreprises dans l'alimentaire où on faisait effectivement du marketing. Je pense que c'était pas forcément notre objectif. Enfin, on s'en est rendu compte une fois qu'on était tous les jours au bureau sur une chaise avec un ordi. Et puis toutes les deux, on adorait manger. On se retrouvait pas mal les midis pour faire un petit peu les spots autour. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de changements dans la bistronomie. C'était les années 2015-2016. Ouais. Il y avait le fooding qui commençait vraiment à bien fonctionner. Et puis, il y avait toutes ces pâtisseries aussi qui commençaient un petit peu à faire parler d'elles. Et on trouvait que la boulangerie, elle stagnait et c'était vraiment pas... Enfin, il se passait rien et on trouvait ça hyper dommage parce qu'on est toutes les deux hyper consommatrices de produits de boulangerie et on s'est dit bah en fait c'est dommage que la boulangerie soit un peu plein de poussière, un peu glauque, il y a plein d'industriels, enfin on s'est dit il y a vraiment c'est un commerce qui est oublié quoi. Et comme c'était un commerce pour nous qui était hyper important, c'est un commerce français, le pain, enfin nous on est des familles, on mange beaucoup donc le pain a une forte importance. Et on s'est dit, bah en fait, il y a quelque chose à faire. Cécile avait déjà son CAP de pâtisserie. Et moi, j'étais beaucoup plus orientée sur le pain. Donc, je suis partie passer le CAP de boulangerie. Et voilà. Et puis, du coup, ça s'est fait comme ça, quoi.
Vous aviez une appétence pour la cuisine, ce que tu disais. C'était aussi... c'était un constat, mais en même temps, une envie aussi présente. Enfin, si tu as fait ton CAP... pâtisserie en même temps que tes études, je crois.
Ouais, bah nous, enfin, en gros, je pense qu'on vient de familles nombreuses où en fait on se retrouve toujours autour d'une table, quoi. On a des parents, des familles qui adorent manger, donc c'est un truc qui a toujours été important. Et je savais assez tôt que je voulais quand même travailler dans cet univers-là et j'avais envie d'apprendre de la base, quoi. Donc c'était important pour moi. Et en fait, on a retrouvé vraiment ce trait commun avec Vic de, bah en fait, on adore manger, quoi. Enfin, c'est un peu bête, mais ça commence toujours un peu là, je pense. Et donc, en fait, moi, j'adore le sucré. Vic, elle adore manger du pain. Enfin, elle en mange beaucoup, en vrai. Et donc, ça a quand même vachement démarré là-dessus. Et après, en se baladant, effectivement, on se dit, c'est fou, quoi, les boulangeries, on n'aime pas y aller. On aime certains produits et tout, mais en fait, on n'apprécie pas particulièrement ce moment d'aller à la boulangerie. On a envie que ça dure 2 minutes et pas plus, et de pas traîner, quoi. Et on s'est dit, c'est fou, parce que c'est dommage. En vrai, c'est plutôt un univers sympathique.
Commerçant lui-même, il y a pas beaucoup d'échanges. Enfin, il y a de moins en moins. On trouvait, après, il y a toujours des boulangeries qui sont top, mais je veux dire, il y en avait de moins en moins.
Des boulangeries triste, où tu quoi. Payes maintenant, tu sais, tu mets ton argent dans la machine.
Et puis, c'était pas très joyeux.
Et vous êtes rencontrés à l'école ?
Non, on s'est rencontrés au travail. Donc, on bossait pour 2 marques différentes dans un bureau qui regroupait un peu tout le monde. Et je pense l'amour du manger fait que...
C'est le destin de la bouffe.
Donc, beaucoup de travail et de formation en amont. Enfin, ça, c'est pas improvisé. Enfin, vous n'êtes pas improvisé boulangère, pâtissière.
Ah non, pas du tout. Vous avez pour le coup, moi, j'avais le CAP, donc j'avais fait des stages aussi pas mal, mais plutôt dans des milieux gastronomiques assez haut de gamme et tout. Et en fait, on s'est dit, c'est pas du tout ce qu'on veut faire. Et donc, Victoria, elle a passé le CAP. En fait, nous, on voulait être complètement autonome en termes de production. Parce qu'on pensait jamais que ça deviendrait ce que c'est devenu Mamiche. Mais donc, on s'est dit, en fait, il faut qu'on sache tout faire. Donc, en gros, Victoria, elle est partie passer son CAP. Et après, on a fait, plein de stages. En fait, dès qu'on rencontrait quelqu'un, on se disait, il peut nous apprendre quelque chose, nous faire rencontrer la personne d'après. On y allait, quoi.
Ouais, tu l'as très bien résumé. Je n'ai rien à ajouter.
T'as fait Jocteur à Lyon et la Tour d'Argent.
Exactement. Ouais. Le Tour d'Argent, il venait d'ouvrir la boulangerie. Donc, moi, je faisais les pains du restaurant. Et Jocteur, parce que moi je suis lyonnaise à la base, donc Jocteur c'était un peu une petite institution quand j'étais petite. Et du coup ils m'ont pris à Paris, donc on a fait ça. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On allait apprendre à faire des croissants dans le 15e. Enfin, moi j'ai travaillé chez Utopie, toi, Jojo & Co, moi pour au marché d'Aligre. Enfin, on a fait vraiment pas mal de trucs pour essayer de se faire la main à max, quoi. Et puis aussi s'accoutumer au milieu qui est vraiment hyper difficile physiquement, moralement, enfin les conditions de travail sont vraiment pas faciles et je pense qu'on avait besoin de ce temps pour réaliser que notre vie elle allait vraiment changer. Enfin, nous on sortait d'école de commerce et d'un bureau sur les Champs-Élysées, quoi. Donc la pause café, tu l'oublies, quoi. Et je pense que ça nous a fait du bien parce qu'on a vraiment réalisé dans quoi on se jetait et finalement on a après un an tu sais dans quoi tu te lances, quoi.
Et ça a été difficile de s'accoutumer à,
ah ouais.
à cette, cette, ce rythme.
On peut dire qu'on a chialé un peu. Hein. Ben non, mais on était habitués à avoir une vie sociale. On avait des potes. On les voyait souvent. On pouvait souvent voir nos familles. Et puis on travaillait la journée, quoi. Déjà rien que ça, c'était un énorme changement. Et puis aussi, il y a un truc qui a été un choc ultime, c'est que nous, on bossait dans des boîtes où il y avait beaucoup de femmes. Et là, on est passé dans un milieu, enfin, pratiquement, il y avait que des hommes. Enfin, moi, j'étais la seule femme, toi, je pense pareil. Et voilà, c'était quelque chose, c'était une vraie expérience, quoi. Alors là, c'est en train de changer la boulangerie, donc il y a de plus en plus de femmes, mais à l'époque, c'était lunaire, quoi. Enfin, vraiment, ils nous voyaient arriver, ils disaient, mais c'est une blague. Enfin, qu'est-ce qu'elle fout là, quoi?
Elles vont rester 2 semaines, elles vont repartir.
Exactement. Et je pense qu'ils nous tendaient des perches, enfin, un peu pour voir jusqu'où on allait tenir, pour se dire, on va la casser en deux, on va voir jusqu'où elle va aller. Et puis nous, on se faisait aussi un malin plaisir, mais c'était dur à dire, en fait, on va leur montrer que c'est possible. De toute façon, on n'a pas le choix, parce que si on veut monter cette boulangerie, il va falloir le prouver, quoi.
Vous aviez cette idée en tête dès le...
Enfin, le début.
Dès le début,
ouais,
en
ouais,
tout
ouais,
cas,
ouais.
De se dire, vous faites tout ça aussi, parce que ouais. Vous avez ce but derrière d'ouvrir votre propre boulangerie.
Ouais.
Mais je pense que c'est ça,
ça vous a aidé à tenir.
C'est ça, c'est ce que j'allais ouais. dire. Je pense que c'était le truc qui faisait qu'on tenait, parce qu'en fait, en gros, quand c'était dur... Et que nous, en fait, on s'appelait parfois le soir parce qu'on faisait des stages différents et tout. On se disait, mais en fait, ça, on s'en fout. Faut passer outre parce que nous, justement, on sait qu'on veut pas faire comme ça. On sait qu'on veut faire différemment. Et je pense que ça nous a même permis de... Nous, on a toujours eu l'idée du respect des gens dans une entreprise, etc. Mais voir certaines conditions de travail et comment nous-mêmes, on se faisait traiter, je pense que ça a renforcé dans notre tête le fait de se dire... Il faut absolument qu'on ne fasse pas comme ça. Il faut absolument qu'on fasse un truc différent. Parce qu'en fait, ces gens, ils sont tellement habitués, entre guillemets, à un métier dans la souffrance, quoi, quand même, franchement, qu'en proposant le même job, mais dans des bonnes conditions de travail, en fait, ça va tout changer. Et je me dis, finalement, peut-être si on avait eu des bonnes expériences, hyper simples, hyper cool et tout, peut-être qu'on aurait été un peu plus négligente sur cet aspect-là. Alors qu'en fait, nous... Plein de fois, on se dit, attends, mais tu te souviens chez machin, comment c'était horrible et tout. Genre, il ne faut pas reproduire ce schéma qui est quand même concrètement assez malsain, quoi.
Donc, toutes vos expériences vous ont permis aussi de concrétiser et construire le projet Mamiche et de l'aboutir aussi.
Je pense très petit à petit, ouais.
Mais après, il y a plein de fois, on a failli abandonner.
Ouais. Ah oui, quand même
Ouais. Notamment une fois, on avait eu affaire à un potentiel futur fournisseur qui était un peu limite industriel, quoi, qui nous avait proposé ses produits. Et je pense que quand il a vu qu'on n'était pas dans la même optique qu'eux, il nous a complètement démonté en disant, là, pour le coup, il a appuyé le fait qu'on était des femmes et qu'on n'y arriverait jamais, que si on voulait des enfants, ce serait impossible. Enfin, vraiment, ça a duré, on s'est fait cuisiner pendant un quart d'heure. Et on est sorti de là, on a failli abandonner Mamiche, quoi. On s'est dit, viens, on fait comme tous ces gens qui montent des trucs, en fait, qui sont pas vraiment une boulangerie, mais hybride, genre coffee shop, où on fait des croissants un peu, puis on change la carte souvent. Et en fait, on a appelé nos parents en pleurs, je me souviens, genre en disant, mais en fait, on laisse tomber, quoi. Enfin, ça fait un an et demi qu'on travaille là-dessus, mais en fait, je pense que ça va pas se faire. Et puis, je sais plus, il y a eu un déclic 2-3 jours après, on s'est dit, mais en fait, on va pas lâcher, ça fait un an et demi qu'on est dedans, on y va, quoi. Et voilà. Et puis, en fait, je pense que ça nous a encore plus motivés. Ouais. Mais on s'est pris quand même des bonnes claques qui nous ont fait beaucoup douter, quoi.
Faut être surmotivé, quoi.
Le fait d'être deux.
Deux, ouais. Ouais.
Ouais, pardon, le fait d'être deux, ça aide quand même pas mal parce que on plonge pas à la même profondeur en même temps, entre guillemets. Donc quand il y en a une qui est vraiment genre, non, mais je te le dis, c'est impossible et tout, il y en a quand même l'autre, je pense qu'elle a plus l'envie de rattraper le truc. Mais oui, faut être quand même motivé parce que pareil sur le modèle économique, enfin, il y avait le truc d'être deux nana. Et reconverti, ce qui à l'époque ne se faisait pas du tout. Il n'y avait pas de reconverti dans les boulangeries. Donc les gens nous disaient, vous allez, même genre à titre perso, genre en prod, vous allez tenir 2 semaines, vous allez voir ce que c'est d'avoir une entreprise, vous n'allez pas tenir physiquement. Après, le truc femme, enfant, machin, ça, on l'a eu pas mal. Et il y avait le côté, nous, on leur disait, on veut tout faire maison et on veut pas des prix ridicules, quoi. On veut des prix accessibles. Et ça, les gens, ils nous ont cassé en deux en disant, vous vous rendez pas compte, c'est impossible. Il y a une raison pour laquelle les gens ne le font pas maison. C'est parce que ça n'est pas possible. En fait, vous ne gagnerez pas votre vie.
Pour recontextualiser, c'est que l'industriel, à cette époque-là, il était vraiment ancré dans la boulangerie. Parce qu'en fait, le métier de boulanger est tellement difficile que l'industriel s'est inséré pour faciliter la vie des boulangers, pour qu'ils démarrent peut-être 2 heures plus tard et qu'ils se soient beaucoup moins physiques. Donc, les boulangeries, on va dire, j'ai plus le pourcentage en tête, mais c'est énorme. Je crois que c'est 80% des boulangeries font pas leur viennoiserie maison, qu'ils choisissent sur catalogue. Maintenant, il y a même sur les catalogues, la viennoiserie, comment ils appellent
irrégulière.
Ça? Irrégulière, pour faire croire que c'est fait maison. On l'a vu, nous, sur des catalogues. Et genre, les farines qui sont toutes prêtes, avec la levure à l'intérieur chimique, ils rajoutent full gluten pour que ça aille plus vite. C'est pour ça qu'il y a des allergies au gluten, enfin, ou des intolérances. Et du coup, je pense que, effectivement, nous, on est arrivé vraiment quand l'industrie, elle était au top de sa forme, quoi. Et les gens croyaient pas au fait de revenir en arrière, de retravailler du levain, de refaire la viennoiserie maison, même le mot tourrier. Ça n'existait plus sur les annonces qu'on postait. Les gens savent pas ce que c'est qu'un tourrier. Un tourrier, c'est quelqu'un qui fait la viennoiserie. Mais parce que en fait, ce métier avait complètement disparu à cause des industriels.
C'est des tours de pâte.
Exactement, avec le beurre. Avec le fameux beurre, quoi. C'est quelqu'un qui baigne dans le beurre toute la journée. Donc, je pense que le contexte aussi n'aidait pas à notre idée de commerce qu'on voulait lancer.
Et vous vous souvenez, donc 2017, l'ouverture de Mamiche
Déjà, donc Victoria, première vraie nuit où il y avait la quantité, entre guillemets, enfin je dis la quantité, mais c'est drôle aujourd'hui de dire ça, mais voilà, mais il fallait quand même sortir ce qu'on avait défini comme quantité de base. Donc Victoria qui était arrivée toute seule de nuit et tout, bref, parce qu'on se faisait quand même des horaires de grand n'importe quoi. Donc Victoria qui était arrivée à 1h du mat, moi à 5h du mat parce qu'à l'époque je faisais les sandwichs, aussi la pâtisserie. Et moi je me sens très bien du premier client parce qu'on avait donc cette fameuse...
Vous étiez toutes les deux ?
On était toutes les deux, plus on avait Sarah qui nous faisait de la pâtisserie parce qu'on s'est dit on peut pas tout faire et surtout fallait être en vente aussi.
Oui.
Et donc on avait dit ok, on met une personne en pâtisserie, donc sandwich fait, on ouvre la boutique et là... en fait, on s'était jamais servi de la caisse de notre vie. Enfin, et donc, Victoria était en train de faire le pain, et moi, j'étais à la caisse, et là, je la regarde, et je lui dis, mais je sais pas me servir de la caisse. Et surtout, on savait pas qu'il fallait un fond de caisse, on savait pas qu'il fallait mettre de l'argent dedans. Donc, la première personne, elle vient, elle me tend un billet de 10 euros, et moi, je suis là, mais j'ai rien, et là, je la regarde paniquer, genre, mais qu'est-ce qu'on fait? Vic, elle était, donc là, il était déjà 8 heures, donc Vic, ça faisait déjà 7 heures qu'elle bossait, donc elle était, genre, crevée et tout, et enfin, bref, c'était, mais bon, on en rigole et tout, mais sur le coup, c'était, pareil, il y a, je me souviens, c'était des potes aussi qui étaient venus au début, et gentiment, ils me prennent un cappuccino. Première fois que je fais un cappuccino de ma vie, quoi. Donc on sait pas faire, bref.
Alors qu'on s'était cassé le cul à prendre l'OMI, à faire des formations, mais en fait, une fois que t'es devant la machine, t'es en panique.
Et franchement, sur le coup, c'était hyper dur, mais on était hyper fiers, mais c'était dur parce que, en fait, quand on ouvre un commerce, il y a un milliard d'aspects auxquels on pense pas du tout. Et nous, on était tellement obsédés par les produits.
Vous avez oublié
la qualité. Et le lieu, on voulait que ça soit sympa, mais en fait, c'était via le lieu.
Secondaire.
Qu'on a complètement oublié l'aspect commerçant concrètement. C'est-à-dire concrètement, t'es quand même derrière la caisse. Enfin, je me souviens très bien qu'il y a plein de façons d'emballer qu'on a improvisé total, qu'on a gardé aujourd'hui, mais qui était une impro totale. C'est-à-dire qu'on était là avec le sachet et là, j'étais mais en fait, on n'a jamais réfléchi comment on met le produit dans le sachet parce qu'on s'était juste dit, on a des sachets trop cool, on a des bêtes de produits, mais comment le produit rentre dans le sachet, voilà.
Enfin, y a des sachets qui ont disparu depuis parce qu'on avait des formats trop chelous, quoi.
Mais c'était voilà quoi. Mais c'était avec le recul, c'est rigolo, mais c'est vrai que c'était un peu chaotique.
C'était une boulangerie que vous aviez reprise ?
Ouais, c'était une vieille boulangerie qui faisait effectivement malheureusement une partie surgelée, donc le matériel n'était pas du tout adapté. Mais on a gardé quand même pas mal de tout ce qu'on pouvait en matériel pour essayer de recycler un peu, et on a un peu douillé d'ailleurs vis-à-vis de ça parce que il y a tout ce qu'on a encore, mais il y a pas mal de trucs qui nous ont lâchés dans l'année qui ont suivi où nous on était en pleine bourre et le truc lâche quoi, le four lâche. Mais c'était une vieille boulangerie qui était, moi j'avais pas beaucoup mangé là-bas, mais voilà.
Non, mais c'était vraiment le cliché de la boulangerie parisienne.
Non, c'était la Ronde des Pins, c'est ça ?
Oui, c'était une boulangerie qui était affiliée au Grand Moulin de Paris, qui faisait effectivement, ils faisaient pas leurs gâteaux, ils faisaient pas leur viennoiserie, alors ils avaient le mérite de faire leur pain. Ils faisaient quand même leur sandwich maison, mais bref, c'était tout ce qu'on voulait pas faire, quoi. C'était vraiment le poulet bouilli, l'éclair à la vanille, j'en passe, c'est des meilleurs.
La tarte aux fraises à Noël,
hiver.
Voilà. C'était pas trop notre délire.
Et le nom, vous l'avez trouvé comment ?
Le nom, on l'a trouvé dans un restaurant asiatique un soir. En fait, on se retrouvait après le travail pour travailler le projet. Et du coup, on était au resto et puis on avait une liste, on notait et puis on a noté Mamiche, on a même pas tilté. Enfin, on était là, bah, Mamiche, machin, c'est passé au mieux des ouais. C'était quoi, le vin et compagnie. Enfin, des trucs comme ça, c'était nul. Le blé desséché, c'était n'importe quoi. Et puis c'était deux jours après dans le métro, on a relu la liste, on a dit mais attends, mais Mamiche, c'est génial, genre les miches de pain, enfin les miches comme on est deux meufs. Il y avait Ami dedans, il y avait Mamie comme on faisait un peu des produits de grand-mère, il y avait quoi dedans ? Je sais plus, voilà. Enfin, on s'est dit, bah vas-y, go. Et c'est, enfin, on l'avait pas du tout repéré, quoi.
Et bah c'est vrai qu'au début, vous avez aussi pas mal joué sur ce côté féministe, bah comme tu disais, de femmes dans le milieu de la boulangerie. Donc c'est vrai que ça, et le jeu de mots, bah comme vous avez dit, la place des femmes dans le milieu était compliquée quand vous avez commencé. Et aujourd'hui, ça, vous sentez que il y a un petit pas de fait.
Ouais. Il y a déjà une reconnaissance envers nous qu'on n'avait pas du tout au début. Donc ça, bon, après, on a fait beaucoup de choses depuis. Donc je pense que on a prouvé à certaines personnes qu'on pouvait y arriver. Je pense que, en tout cas, au niveau de nos employés, il n'y a jamais eu de problème. Après, il y a quand même encore des choses ancrées qui nous font plus marrer maintenant parce que nous, on n'est pas des féministes actives, on n'est pas militantes et tout. C'est juste que c'est important pour nous que, en fait, ce soit pareil, qu'on soit une femme ou un homme, que ce soit pareil. Même nous, avec nos employés, alors, on est complètement conscients qu'il y a une différence entre les deux, par exemple, niveau force physique, entre pour porter un sac de 25 kilos, quand une femme est enceinte, on a déjà eu des employés enceintes. Enfin, c'est sûr qu'il y a une différence. Donc ça, on en est complètement conscients et le but, c'est de le respecter et d'essayer de faire des choses pour faire changer le milieu. Après, pour nous, c'est la même chose. Il n'y a pas de débat entre un homme et une femme. C'est juste que il y a encore des choses dans le milieu qui sont ancrées. Typiquement, on est à un salon de boulangerie où on a voulu acheter une trancheuse. Vous savez, les trancheuses à pain. On était nous deux. Ça coûte quand même quoi, 12-13 000 euros, un truc comme ça. Enfin, une machine
pour,
comme ça.
Pour trancher le pain.
Ouais. Ah, toutes les machines sont extrêmement chères en boulangerie. Et donc, on négocie avec le mec et tout. Et puis, on dit oui, mais si elle tombe en panne, on fait comment ? Elle dit, il dit quoi ? Il dit
je suis sûre que votre mari saura la réparer.
Ouais. Genre, bah vous demanderez à votre mari de venir la réparer. Et donc on était là, mais donc vous voulez pas nous montrer parce qu'en fait on peut ah bah non mais votre mari ça va, il saura faire, hein. Et nous on était là, alors déjà on travaille pas avec nos maris, on est tous les deux, et puis après ils nous regardent un peu en mode mais êtes-vous lesbienne, enfin il y a eu toujours ce truc un peu chelou, donc on est là non mais on peut réparer nous-mêmes quoi, donc il y a toujours des trucs un peu bizarres. Maintenant nous on en rigole, on veut surtout pas que ce soit un sujet, enfin un gros sujet, c'est juste qu'on essaie de faire passer des messages aux gens gentiment que en fait oui on est deux meufs et on est capable de réparer une trancheuse et parfois on l'est pas capable.
Oui,
mais c'est vrai. Mais comme un homme ne serait pas capable, voilà.
Et vous avez montré la voie aussi peut-être.
Oui.
Je pense que en fait il faut toujours une je crois que Tenbel les avait ouvert quand même avant nous, mais c'était moins la boulangerie traditionnelle quoi, en fait c'était plus quand même un truc anglo-saxon, coffee shop et tout.
Elles ont commencé par le coffee shop au
ouais
début,
voilà,
et la boulangerie est venue
alors que nous c'était
temps.
Quand même vraiment le commerce de quartier quoi, donc c'est je pense il faut quand même des gens un peu pour ouvrir les portes. Et après on a eu plein de messages de Nana qui nous disaient mais en gros enfin qui nous posait plein de questions et qui nous disait mais si vous l'avez fait est-ce que bon, en gros est-ce que moi je vais y arriver, donc nous on les poussait à essayer. Après c'est sûr que pour deux femmes c'est juste que c'est plus dur en fait, c'est ça qui est un peu le mauvais constat, c'est que ça reste plus dur
physiquement.
Bah physiquement les gens vous font quand même moins confiance, en fait c'est toujours pareil. Et après nous on comprend très bien pourquoi les femmes elles ouvrent plus d'autres genres de commerce et justement elles vont plus dans ce truc hybride coffee shop un peu pâtisserie, c'est que dans le milieu, les femmes, on est quand même une exception. Enfin, nous, ça nous est déjà arrivé que des gens sachent qui on est juste parce qu'on est les deux filles. Et on était en mode, mais comment ça, ça? Bah, en fait, il y a que deux. Enfin, il y a que une fois, j'ai entendu, il y a deux filles qui ont ouvert une boulangerie. On était, mais dans toutes les boulangeries? C'était fou, quoi. Enfin, je veux dire, donc, il y en a tellement peu que c'est, ouais, ça reste quand même une exception et c'est plus dur, quoi. C'est-à-dire que les gens, ils vont moins vous faire confiance. Nous, il y a plein de stages, on se faisait pas humilier quoi, mais franchement mais même des vrais stages je veux dire de que certains meuniers nous avaient offerts, genre où en gros on était accueillis pour nous convaincre de les prendre, et les démonstrateurs ils nous riaient au nez quoi. Et c'était et nous on se disait genre bon bah donc déjà ça on va pas aller avec eux parce qu'en fait déjà ils se foutent de notre gueule avant même qu'on commence. Et en fait ça c'est je pense quand même que aujourd'hui une des femmes qui veulent ouvrir dans la vraie boulangerie traditionnelle, je pense quand même que c'est plus facile qu'avant, mais c'est moins facile quand même que pour un homme. Ça
à cause du milieu en fait.
Bah du milieu qui est hyper masculin. Ouais. En fait les femmes elles ont l'habitude de travailler en boutique.
Ouais, donc par exemple
quand Victoria
caisse,
une fois on avait fait un ce que j'avais dit on avait fait un concours parce qu'en fait on voulait tellement s'entraîner qu'on voulait faire des concours enfin en fait on voulait faire le plus de trucs possible donc il y a quelqu'un qui me dit mais inscrivez-vous à ce truc c'est pour les jeunes boulangers donc on se dit ok on s'inscrit et il y avait une partie production une partie fallait dresser un stand présentation machin etc et donc c'était pas en même temps toutes ces étapes enfin toutes ces voilà et donc bref Victoria part en production fait son truc et tout et pendant que les hommes faisaient la production les femmes voilà.
Moi, j'étais avec des hommes. Ils étaient tous habillés en noir. Moi, je me souviens que j'avais mis mon petit truc blanc et ils étaient tous genre full équipés. Moi, je suis arrivée en t-shirt.
Moi, je me suis retrouvée qu'avec les femmes des boulangers qui avaient des French manicures de 10 cm et des strass sur les dents, la totale. Et ils m'avaient proposé une visite de Paris avec toutes ces femmes parce que c'était un truc qui était dans toute la France. Et il m'a dit, bah, vous voulez faire la visite de Paris et tout, et j'étais vraiment avec des nanas, mais j'étais, et je leur ai dit, bah, non, mais vous savez, moi, je vis à Paris, donc, je vais pas faire la visite, parce que bon, voilà.
Je peux pas faire
mais
le bateau mouche.
Je disais à Victoria, je peux pas.
Parce que du coup, pour clôturer le truc, il y avait un bateau mouche, et on y allait ensemble, c'était assez drôle.
Mais voilà, les gens pensaient qu'on était en couple. la photo, elle est dans notre bureau, elle est juste mythique, où on dirait deux bonhommes. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Et les gens nous regardaient, mais ils disaient, mais c'est qui ces nanas moi, elle est pas maquillée, machin. Elle, toute mince avec les gars qui faisaient 2 mètres. Enfin, c'était n'importe quoi, quoi. Mais on a eu coup de cœur du jury, quand même. On a eu le prix de pitié.
Bravo. Ouais. Et dans vos équipes, vous avez beaucoup de femmes ?
Ça change tout le temps, mais il y a eu un moment où on avait beaucoup de femmes.
Ouais.
Beaucoup. Franchement, maintenant, c'est. Ouais, 50, c'est. 50, ouais, 50-50, ouais. Ça se partage bien.
Le succès a été immédiat ?
Quand même, assez. En fait, je pense que les gens, quand ils ont goûté un croissant vraiment au beurre, ils ont tout de suite réalisé qu'il y avait. Enfin, que ça faisait la différence. Après, ça a été difficile pour nous. Alors, c'est horrible à dire. Enfin, c'était pas un succès énorme au début. C'était, on avait, en fait, comme on était que deux, c'était facile qu'il y ait la queue, hein, parce qu'à deux, faut quand même au bout de 10 personnes, il y a la panique. Hein.
Surtout avec Cécile qui savait pas très bien rendre la monnaie.
C'était très vite la panique. Donc les gens disaient, c'est un succès fou. Oui, enfin, on a eu 100 clients dans la journée, mais non, ouais, non, mais ça a été rapidement un succès. C'est juste, ça a été difficile pour nous parce que je pense qu'on n'était pas prête à avoir autant de gens au début, même si ça restait faisable. Mais du coup, on avait peu de produits par rapport à la demande et les gens comprenaient pas que à 14h, ils pouvaient pas avoir un trou de croissant ou un trou de baguette parce que les gens étaient tellement habitués à l'industriel ou typiquement la tarte aux fraises à Noël. Mais le nombre de fois, on a eu des demandes de gens qui ont l'air plutôt en plus conscients de la nourriture à l'époque. Mais je pense qu'à l'époque, il y avait vraiment pas toute cette sensibilisation autour des matières premières, du bio, du côté légumes de saison et tout ça. Et en fait, on a eu des demandes. En fait, c'est comme si les gens avaient eu un choc avec nous de ah oui, donc en fait, les fraises, ça existe pas à Noël. Ah oui, donc en fait, quand c'est fait maison, il n'y a pas forcément des croissants à toute heure de la journée. Il y a des trous de baguettes. Une fois, moi, je me suis quand même fait traiter de salope parce qu'il n'y avait plus de baguettes. Donc, et en fait, je disais, mais comment vous pouvez dire ça? Parce qu'en fait, je fais tout maison. Ma farine, elle est label rouge. Elle est 1 € la baguette. Je fais au levain. Je la fais à la main. Je la façonne à la main. En fait, juste si vous adorez ma baguette, du coup, bah, il y a des contraintes à ça. Et ça, les gens n'acceptaient pas le côté contrainte boulangerie. Pour eux, la boulangerie, c'est tout le temps blindé. Alors maintenant, on y est arrivé, donc il n'y a plus aucun problème. Mais à l'époque, on a eu beaucoup de mal à l'accepter. On se faisait vraiment remuer sur les réseaux, sur Google Avis, qui sont quand même une plateforme très compliquée quand même à gérer, en face à face. Mais d'ailleurs, on préfère en face à face. Mais les gens comprenaient pas, et ça, c'était hyper dur pour nous.
Et limité aussi par vos équipes, parce qu'au début, tu te lances, vous étiez
équipe,
trois.
Équipe, matériel,
tu fais ce que tu peux.
Ouais, et puis matériel, comme on avait récupéré pratiquement les 3/4 du matériel d'avant, qui était un truc de surgelé, on n'avait pas du tout le matériel adapté, mais bon, on n'avait pas beaucoup d'argent pour se payer la dernière machine qui nous fera gagner 1 heure. Donc ouais, c'était très
dur, c'est
c'était les baguettes, moi je trouvais. Les baguettes, vraiment, c'était nous on faisait. Ah ouais, non mais c'était parce qu'en fait le soir, parce qu'en fait au bout d'un moment, au bout de genre 6 mois, un truc comme ça, on a embauché une personne en boulangerie. Donc on commençait, en fait on faisait plus que un peu les sandwichs. Victoria continuait de faire, voilà, elle faisait la viennoiserie, moi je faisais les sandwichs, mais entre guillemets c'était un peu moins, enfin quand je dis pense, c'était un peu moins dur dans le sens où on faisait genre je sais pas, on ne travaillait que 12 à 14 heures par jour. Voilà, on va le dire comme ça. Parce que...
En fait, on arrivait donc chacune à 4-5 heures et il y en avait une qui partait faire la sieste à 4, de 14 à 17 et elle faisait la fermeture jusqu'à 21h30.
Ah ouais.
Parce que le temps de ranger tout, faire la plonge, machin. Et du coup, l'autre, elle partait à 17h dormir parce qu'elle s'était tapée 4h, 17h quand même. Ouais. Non-stop. Zéro pause.
17h, quand tu dis 17h, tu dors jusqu'à ce que tu te réveilles ou tu fais une sieste et après tu...
Alors moi je faisais, donc il y avait soit celle qui faisait la sieste et à 21h elle rentrait, elle dormait direct, soit celle qui rentrait à 17h, elle dînait à 18 et à 19 elle dormait parce qu'elle rattaquait à 3-4 heures quoi. Donc c'était lunaire et il y en avait une qui faisait du coup seule le soir la boutique.
Ça c'était vraiment... Parce qu'en fait là, en fait on avait embauché une boulangère et donc la boulangère elle travaillait de nuit mais donc en fait à midi elle partait. Enfin, en gros, parce qu'elle bossait déjà beaucoup, mais en gros, elle partait en fin de matinée. Donc, elle cuisait le max qu'elle pouvait, mais il y avait quand même ce truc des baguettes, quoi. Normalement, on peut pas cuire les baguettes à midi pour les vendre à 20h, c'est pas possible. Donc, le soir, celle qui revenait à 17h, elle faisait la vente, et en même temps, de 17 à 20h, elle cuisait des baguettes. Mais, je peux pas, c'est-à-dire qu'on était dans un état de, vraiment, c'était du sport. On transpirait, enfin. Mais surtout, c'était, parce que c'est dur physiquement de cuire des baguettes, enfin, faut les passer sur le tapis, faut enfourner, faut défourner, et en fait, effectivement, genre, on courait. Donc, les gens, ils étaient vénères parce qu'ils attendaient, parce qu'ils me voyaient faire des baguettes, mais en même temps, voilà, pas le choix.
Baguettes et ventes.
Oui. Et parfois, les gens, ils rentraient dans la boutique. Et donc, il y avait des moments, c'était horrible parce qu'on savait qu'on les enfournait, je sais pas, 24 en même temps, 12, je sais plus. Et en fait, elles étaient déjà vendues avant même d'être enfournées. Parce que nous, on voulait être sympa. Donc, on disait aux gens, écoutez, je vous la mets de côté, donnez-moi votre euro, c'est pas grave, machin et truc. Et un jour, il y a le tapis, donc le truc pour enfourner les baguettes qui m'est tombé dessus. Et les gens, ils en avaient rien à foutre. C'est-à-dire que j'étais ça pèse lourd.
Ah ouais.
Et donc, je me suis pris ce truc dessus. J'étais en mode, et surtout, il était genre, je sais pas, 18 ans. Je me suis dit, mais comment je vais faire?
Enfin, c'est horrible parce qu'elle s'est pas fait mal. Sinon, j'en rigolerais pas.
Mais surtout, j'étais là et les gens me regardaient en mode, je peux avoir une baguette? Et franchement, j'ai dû dire à un mec, monsieur, si vous m'aidez pas à remettre le truc, je ne peux pas faire de baguette, en fait. Il y a un mec trop sympa. Il m'a aidé à remettre le truc, mais les gens, ils s'en foutaient, quoi. Et en fait, ça, on a eu quand même pendant bien un an et demi ce genre de rythme où en fait, on faisait que dormir, manger, travailler. Quoi. Franchement, ça n'allait pas beaucoup
plus loin que
ça.
Ouais, ça devait être dur quand même.
Et surtout, à l'époque, on était ouvert 6 sur 7. Donc, on se reposait que le dimanche et on avait tout l'admin à faire. Qu'on faisait dès qu'il y avait des trous de clients. En gros, on mettait nos ordis sur la trancheuse qui était derrière cachée et on bossait avec nos ordis sur la trancheuse. Quoi.
Non, mais avec du recul, on était un peu tarés. Hein. Enfin, on était naïfs, quoi. Enfin,
vous étiez jeune. Quel âge?
Moi, je devais. Alors. Moi, j'avais. Non, j'avais 24-25. Toi, t'avais.
Ouais, moi, j'avais 27. Ouais.
Ouais, je mais bon, en fait, on était.
Oui. On parle souvent de la naïveté dans tous les entretiens qu'on a, parce qu'en fait, la naïveté, je pense, c'est hyper important. Alors, on avait de la chance qu'on était jeunes, donc forcément un peu naïve. Mais en fait, c'est ça qui nous a permis aussi de pas avoir peur de se lancer. Aujourd'hui, je suis pas sûre que avec notre cerveau un peu plus d'adulte, et encore, c'est quand même pas très élevé. je suis pas sûre qu'on aurait eu le cran de le faire, quoi.
Si tu dis qu'avec le recul, connaissant toutes les étapes par lesquelles
je suis pas sûre.
Passé,
je suis pas sûre.
Tu recommencerais pas?
Ouais, on s'est déjà posé la question, on s'est dit, je suis pas sûre qu'on l'aurait fait. C'est parce qu'on était naïfs qu'on s'est dit ça va être génial, on va ouvrir notre boulangerie, je vais faire le pain, je vais être dans mes petits fours le matin et puis toi tu vas servir les clients et puis en fait on savait pas tout ce qu'il allait.
Ouais.
Mais voilà, c'est pour ça que la naïveté est un peu. Je trouve que moi c'est une richesse. Alors il y a naïf et naïf évidemment, mais en tout cas dans notre expérience la naïveté nous a beaucoup aidé à foncer quoi.
Et alors est-ce qu'on peut faire de la boulangerie artisanale aujourd'hui?
Ah bah complètement, on y arrive, Alors je sais pas si nous on avait des objectifs qui étaient très précis, on n'a pas pu tous les remplir, c'est-à-dire faire de la bonne, enfin et encore on est proche, mais nous on voulait des bonnes matières premières, faire de la qualité, pas cher, enfin il y avait plein de choses qu'on voulait cocher, on n'a pas tout coché, mais je veux dire les trois quarts sont faits et pour nous l'objectif il est atteint. Après, maintenant, les objectifs, ils sont, en fait, ils évoluent. C'est-à-dire que maintenant, il faut maintenir une qualité avec des turnovers qui sont évidents, avec un métier qui, je pense, a beaucoup changé depuis le Covid, puisque les gens veulent plus les mêmes choses. Et c'est des métiers qui restent quand même très contraignants. Donc, comment satisfaire des employés pour qu'ils soient contents de bosser encore dans ces métiers?
Ils peuvent pas faire de télétravail.
Exactement. Le télétravail, ils voient tous leurs potes faire du télétravail chez eux.
Partir habiter à Marseille.
Exactement. Ou faire des pauses café, ouais. Ou aller déjeuner avec les copains le midi. Eux, c'est pas le cas. Et c'est notre rôle, en fait, d'essayer de rendre ça, alors je dirais pas du tout glamour, ce sera jamais le mot, mais de rendre ça agréable et qu'en fait leur passion soit encore suffisamment importante pour que ça prenne le dessus par rapport, comparé à d'autres métiers qui sont effectivement beaucoup plus glamour et beaucoup plus faciles et beaucoup mieux payés, parce qu'on va pas se mentir, moi je comprendrai jamais qu'on soit, enfin on l'a, en fait on a un peu mal vécu le Covid dans le sens où on est des métiers de nécessité qui avons été contraint de rester ouvert. Bon, même si nous, on l'aurait fait de toute façon parce que c'était hyper important à ce moment-là, mais je veux dire, on paye des charges qui sont autant que les autres, alors qu'il y a des conditions de travail qui sont tellement extrêmes et qu'en fait, ça nous limite sur les salaires qu'on peut distribuer à nos employés. Et moi, je trouve ça pas normal qu'un mec qui, je dénigre pas, mais qui fait des mails toute la journée sur un fauteuil, contrairement à quelqu'un qui se lève à 1h du mat, qui se dégomme le dos, qui respire de la farine, qui travaille dans le chaud, très chaud, voire, enfin, pendant les canicules, c'est extrême, qu'on n'ait pas des aides, en fait. Parce qu'en fait, on a remarqué que ces métiers, ils étaient nécessaires à la... Bah là, pour le coup, à la survie d'une population au moment d'un moment difficile. Et ça, je trouve ça fou. Et nous, on essaie, du coup, d'offrir d'autres choses, puisqu'on peut pas forcément leur offrir des salaires comme dans les bureaux. Mais on essaie de leur offrir d'autres choses. C'est difficile, mais on essaye, quoi.
Comment vous avez travaillé sur votre culture d'entreprise, ce genre de choses?
Ouais, on fait des séminaires, ouais, tu pourras mieux en parler, mais dès qu'on a des tournages, des trucs de com, on les fait participer. On est hyper transparente sur tout avec eux, que ce soit positif ou négatif, pour qu'ils comprennent les enjeux qu'il y a dans l'entreprise et pour qu'ils soient pas surpris de se dire, ah, les patrons, ils en ont rien à foutre. Donc on partage, on leur demande vachement leur avis, enfin, on essaye en tout cas. Je pense que eux sont ouverts à venir nous parler au maximum. Et puis qu'est-ce qu'on fait d'autre? Parfois des déjeuners.
On est présente, quoi. En fait, c'est aussi le truc, c'est que nous, on a rencontré plein des boulangers. C'est des vrais, entre guillemets, c'est le vrai patron que on a dans la tête, l'image du patron, quoi. Nous, on est présente, on est à côté d'eux. C'est un peu bête, mais la plupart de nos employés, on a quand même à peu près tous le même âge. Donc déjà, on comprend pas mal leurs problématiques, ouais. Parce que je peux comprendre qu'un patron qui a 60 ans, bah, il comprenne pas trop que son jeune employé de 20 ans, bah, ce qu'il fait chier, c'est que le vendredi soir, il peut pas sortir avec ses potes et tout, parce qu'en fait, c'est ça. Et comme nous, on a aussi envie de sortir le vendredi soir avec nos potes, on comprend très bien la contrainte. Donc, ça, on a essayé de faire évoluer. Et, effectivement, parfois et souvent, on prend des décisions qui sont, entre guillemets, pas bonnes pour le business, mais qui sont bonnes pour eux. Donc, bah, typiquement, quand on a... Ouais. Mais après, on a décidé de fermer le lundi parce qu'on n'en pouvait plus. Nous, on n'en pouvait plus de bosser 6 jours sur 7. Ça faisait que les équipes étaient jamais complètes puisqu'en fait, il manquait toujours quelqu'un qui devait avoir 2 jours. Et en fait, typiquement, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de monde, mais le peu de gens qu'on avait, on leur a dit, bah, écoutez, voilà, nous, on n'en peut plus. Genre, vous en pensez quoi? Ils étaient en mode, bah, pareil. Et on a dit, bah, voilà, en gros, si vous voulez, on ferme le lundi. Par contre, bah, les autres jours, va falloir faire plus parce qu'il faut quand même compenser le jour de fermeture. Est-ce que vous êtes chaud? Comme tout le monde était en mode, on est très chaud. On a dit, bah, ok, go. Mais ça, typiquement, je me sens très bien quand on l'a dit à, je sais plus trop qui, c'était en mode, mais vous êtes folle, quoi. Vous fermez un jour, mais vous rendez compte le chiffre d'affaires que vous allez perdre. Et on était à, bah,
est-ce
ouais,
que vous
mais...
étiez 7-7?
6 sur 7.
6 sur 7. Ah oui, et maintenant vous fermez donc, dimanche et lundi.
Voilà, maintenant on okay. est, donc ça fait longtemps, ouais, mais je veux 5, dire, au ouais. début, c'était une vraie décision de, ouais. voilà, on prend trop de vacances, genre notre comptable, il nous dit, mais vous êtes folle, vous prenez trop de vacances et tout, mais on dit, bah ouais, mais en fait, nous, si on est fatigués, eux, ils sont fatigués pareil, quoi. Genre, ouais. vous sortez de Noël, vous sortez de la Galette des Rois, vous êtes tous sur les rotules, quoi, donc faut pas, et en fait, on a plein d'employés qui, par exemple, ils nous ont dit, mais c'est la première fois que je fête Noël en famille. Première fois.
Et on a, à Noël, c'est un vrai enjeu. Ouais. Et nous, on a vraiment décidé que le 24 au soir, il y avait au moins 2-3 jours derrière où tout le monde rentre chez soi. Ceux qui habitent loin, on essaie de les faire partir tôt le 24 pour qu'ils aient le temps de prendre le train et passer le réveillon avec leur famille. Mais c'est vrai que c'était un vrai challenge, parce qu'avec 60 employés, ouais. c'est un vrai micmac, quoi, dans une période qui est compliquée et tout. Mais on essaie vraiment de faire le max. Après, on fait des erreurs, plein. eux, ils peuvent vous en parler mieux que nous. Il y a plein de fois, on fait des conneries. Il y a plein de fois, on parle avec eux. Et effectivement, des choses qui nous sautent aux yeux qu'on a fait, on est là. Ah, j'avoue, j'avais même pas vu. Et effectivement, parfois, on est obligé de choisir le business plus que sur certaines décisions, notamment pendant le Covid ou ce genre de trucs. Mais c'est important pour nous d'en parler parce que c'est vrai que c'est des métiers, les gens se rendent pas compte à quel point c'est difficile. Et c'est important qu'il y ait une parole là-dessus. Parce que c'est des métiers avec le Covid qui, enfin, il y a plus personne qui veut bosser là-dedans, enfin, de moins en moins de monde. Et en fait, ils méritent vraiment qu'on parle de quoi.
Vous avez des difficultés à recruter?
Ah oui, c'est une angoisse totale.
Alors qu'en plus, enfin, voilà, je pense que vous êtes mamiche.
Il y a plus de concurrence déjà maintenant qu'avant.
Oui.
Donc ça change pas. Alors ce qui nous fait un peu pas rigoler, mais ce qui est agréable parfois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent chez nous, enfin en tout cas qui veulent revenir et qui nous disent bah en fait je suis allée dans tel truc et bah c'est pas du tout tout maison. Ouais. Et donc là nous on dit bah oui parce qu'en fait. Dire qu'on fait tout maison, c'est une chose, mais le faire, c'est un peu autre chose, je pense. Et y a plein de boîtes qui ont pas les mêmes valeurs, entre guillemets, au niveau des employés et des valeurs d'entreprise familiale, etc. Donc ça change, mais on a eu toute la vague des gens qui voulaient se reconvertir en boulangerie, qui ont très très vite déchanté, parce qu'en fait, ils arrivent, nous on les plonge dans, enfin c'est immersion directe dans, c'est ça la vie d'un boulanger. Et donc là c'est vraiment l'hécatombe quoi, c'est au bout d'un mois, au bout de deux semaines, au bout de deux mois, bah il y en a plein qui lâchent quoi, parce qu'ils disent mais en fait je tiens pas. Et donc on dit bah nous on comprend, mais voilà, c'est la réalité quand même du milieu. Et là effectivement je pense que c'est plus que c'est des métiers durs et qu'il y a plein de gens qui se sont arrêtés pendant le Covid et donc en fait reprendre ces métiers là c'est difficile quoi. Donc c'est vrai qu'on a, ouais franchement, enfin juste après le Covid on n'a pas eu de problème. Et donc on se disait putain, on est un peu épargné de ce truc dont tous les restaurateurs, tous les gens qu'on connaît dans le milieu de la restauration nous disaient que c'était catastrophique. Et nous on était bah franchement nous ça va. Mais alors on s'est tapé un coup de boomerang un peu plus tard. Ouais. Et là en fait on a aussi du mal de manière générale à trouver des gens qui ont juste envie de travailler, c'est-à-dire de travailler, enfin d'aimer un peu leur métier, d'être content de ce qu'ils vendent. Parce que chez nous ça marche pas si c'est juste un emploi pour gagner.
C'est pas la poste, quoi. Enfin,
bah non, mais c'est aussi que genre déjà le rythme il est quand même franchement difficile, ouais. Même en boutique parce que on brasse quand même beaucoup de gens. Et l'idée de Mamiche, c'est quand même, c'est de rendre ce moment agréable, que les gens soient contents de venir. Donc, si c'est juste un gagne-pain, franchement, très vite, vous en pouvez plus, quoi. En plus, c'est des métiers. Honnêtement, la vente, c'est dur parce que les gens sont pas toujours hyper tendres. Donc, soit vous l'avez un peu en vous, ce côté, ah, je suis trop contente de vendre ça parce qu'en fait, j'adore les produits, c'est trop cool et tout. Sinon, en vrai, non. Et donc, on a quand même, ouais, du mal à trouver des gens qui ont l'envie, quoi. Un peu, c'est un peu bête à dire, mais juste vraiment envie de travailler. Ça, alors, ils aiment leur travail. Ça, c'est rare maintenant.
Pour revenir au succès, donc deuxième boulangerie en 2019,
ouais.
Juste avant le Covid, juste à côté d'ici, dans le 10e. Et nouveau concept Traiteur Mamiche en juillet dernier, dans le 10e également. Pourquoi pas une troisième boulangerie? Est-ce que...
A posteriori, on s'est pas mal posé cette question, mais pour moi, on n'a pas ouvert juste une autre boulangerie.
C'est un autre métier, ce que vous disiez.
Ouais, en fait, la deuxième, on l'a ouverte surtout parce que la première était petite et qu'en fait, on avait vraiment un problème d'espace et de place. En fait, on ne pouvait pas produire ce qu'on voulait. Donc, on a trouvé celle-là dans le 10e qu'on avait repéré depuis longtemps. On traînait beaucoup dans le quartier, etc. Donc, on avait vraiment repéré celle-là depuis longtemps. Et en fait, qui a un grand espace de production qui nous a permis de produire vraiment pour les deux en plus grosse quantité et tout. Et ça a été entre guillemets un bateau qu'on a eu beaucoup de temps à stabiliser, notamment parce qu'avec le Covid, en fait, la boulangerie du Château d'Eau, on a mis beaucoup de temps à avoir une année normale, en gros, qui n'était pas Covid, qui n'était pas confinement, etc. Et après, une fois que c'était installé, c'est vrai que ça reste quand même dans les deux un peu le même métier et que nous, avec la clientèle qu'on a, on était assez bloqués en termes des produits qu'on pouvait proposer. Parce que les gens, quand ils rentrent dans une boulangerie, par exemple, en termes de sandwich et tout, bah, ils veulent pas un sandwich trop cher, ils veulent pas un truc trop compliqué, ils viennent pour un jambon beurre, quoi, on va pas se mentir. Et donc, nous, on se disait, comme on adore toujours manger, on se disait, oh, mais ça, j'ai une recette trop cool, j'ai goûté ça, à tel endroit, j'ai trop envie de proposer d'autres choses. Mais en fait, la boulangerie nous permettait pas de proposer tout ça. Et en fait, ce local là, donc rue Bouchardon, s'est libéré. Et on venait d'en parler. On sortait vraiment d'une réunion où on venait de parler de ça à quelqu'un. On reçoit un coup de fil. Ici, ça se libère. Là, on se regarde. On se dit, est-ce que ce serait pas un petit alignement des planètes? Et en fait, c'était ça l'idée, quoi. C'était aussi de pouvoir proposer en fait tous les autres trucs que nous on adore manger, qu'on adore faire, et qu'on veut proposer, mais qui colle pas du tout, en fait, dans une boulangerie, quoi.
Ah oui. Non, mais il y a aussi le côté, je pense, traiteur, un peu de la même façon que la boulangerie. Je pense que c'est un commerce qui a un peu disparu. Et moi, j'ai des souvenirs de mes grands-parents qui adoraient aller chez le traiteur avant qu'on arrivait en disant « je suis passée chez le traiteur, j'ai acheté ». Bon, à l'époque, c'était les œufs en gelée ou ce genre de trucs. Mais je trouve que c'est un commerce qui c'est triste qu'il y en ait plus. Enfin, qu'il y en ait beaucoup moins. Et puis aussi, je pense, l'aspect, nous, le midi, quand on veut déjeuner autre chose que chez Mamiche, il y a plein d'offres, mais c'est toujours soit de l'asiat, soit de l'italien, soit des burgers, soit des... Et en fait, pour manger un vrai plat ou un vrai bon sandwich, un peu, bon, bah, j'exagère en disant ça, mais français, enfin, ou en tout cas, un peu artisanal.
Un peu plus classique.
Il faut aller au bistrot ou, à la boulangerie, mais il n'y a pas beaucoup de choix. Et du coup, on s'est dit, c'est horrible parce qu'on perd ce côté carotte râpée. Moi, j'adorerais avoir une bonne carotte râpée, une bonne soupe, un sandwich avec du poulet rôti. Enfin, nous, on fait un sandwich au poulet rôti qui m'assert dans son jus avec les pommes grenailles qui sont imbibées de jus. Enfin, en fait, un truc vraiment qui ressemble à si moi je l'avais fait moi, mais j'ai pas le temps le midi, quoi. Et on était très frustrés de ça, de se dire j'ai toujours le même goût à 14h dans la bouche. J'ai le goût asiatique, j'ai le goût italien. Et voilà. Et c'est de là qu'on s'est dit il y a peut-être un truc à faire. En plus, effectivement, le B2B, on avait beaucoup de demandes et je pense que c'est pareil pour le B2B. C'est chiant de se taper tout le temps. Moi, j'ai pas fait beaucoup de déj B2B, mais c'est des pizzas, c'est... Enfin...
C'est les flots hyper industriels qui ont un peu le goût aseptisé.
Ce genre de choses.
Et ça, nous, les rares gens qu'on connaît, on leur demandait pas mal. Genre, c'est quoi les plateaux repas en entreprise? Et ils nous disaient tout le temps, c'est vraiment genre... surtout, c'est froid, ça a pas beaucoup de goût. Ça se voit que ça a été fait, entre guillemets, un peu à l'usine, quoi. Et nous, on s'est dit, mais nous, on veut exactement l'inverse. Parce que c'est pas parce que c'est un plateau repas que les gens ont pas envie d'un truc, entre guillemets, je mets des grosses guillemets, mais comme si c'était mamie qui l'avait fait, quoi. Donc c'était un peu ça l'idée, quoi.
Voilà, donc c'était important pour nous de revaloriser un peu ce commerce aussi. Alors, pour l'instant, on est très orienté midi, là, parce qu'on n'a pas du tout le staff pour faire full traiteur toute la journée. Mais l'objectif, c'était d'avoir des salades vraiment de saison, avec des bonnes matières premières et des trucs vraiment que un peu travaillés parfois avec des connotations asiatiques, mais beaucoup carottes râpées, céleri rémoulade, je sais pas qu'est-ce la qu'on a, la bonne quiche lorraine, enfin des vraies tartes maison,
roast beef,
voilà exactement. On a aussi les sandwichs qui sont beaucoup plus élaborés que celles en boulangerie. Après, notre axe est toujours le même, c'est 100% fait maison, des bonnes matières premières et pas trop cher. Enfin, je veux dire.
Et j'adore les tartines aussi du matin.
Oui, oui, on a les petites tartines qu'on peut tremper dans le café. Ça, c'était pour les gens pressés.
Sur le chemin.
Parce que ça, la boulangerie, tartines beurre confiture, les gens, je sais pas, ça me paraissait chelou. Alors que là, dans un commerce comme ça, pour nous, c'était beaucoup plus logique. Voilà.
Non, mais c'est trop cool. C'est vrai que, moi, je trouve ça hyper chouette en étant vraiment dans le quartier. Tu viens le matin, tu viens le midi, et donc bientôt. Fin de journée.
Ouais. Alors fin de journée, on en est loin, non. Mais par contre les week-ends, on est en train de travailler une offre de ce qu'on appelle nous les plats familiaux, c'est-à-dire qu'on proposerait des plats genre lasagne, hachis parmentier, boulettes de viande que les gens peuvent acheter en fin de semaine, soit congelés, soit se dire en fait quand j'ai la flemme de une fois quand tout le monde connaît le samedi midi où vous allez faire le marché, en fait vous sortez il est 13h30 et en fait vous allez acheter des bonnes choses mais impossible de le faire, les enfants ont faim ou vous avez faim, du coup typiquement ils passent ici et en fait ils achètent un bon hachis parmentier qui est vraiment fait maison dans une, enfin on a fait tout ça dans les règles de l'art et de pouvoir le manger chez soi à midi c'est un énorme kiff quoi.
Et vous avez aussi développé tout ce qui est pains spéciaux, les comment on appelle ça, les
bagels, ouais,
les pains,
les English muffins, en fait on a
est pris la dernière fois, trop bon.
Ah merci.
Mes filles étaient en transe.
On s'est un peu cassé je dirais pas le mot, mais on s'est un peu cassé la tête, voilà, pour faire ces produits parce qu'on pouvait pas les faire chez Mamiche puisque c'est des petites pièces, donc très compliqué dans une machine comme Mamiche, mais on fait une petite partie épicerie pour que les gens aient des pains qui se conservent plus que, enfin que vous pouvez congeler, que vous pouvez juste prendre une portion le matin et puis laisser le reste congelé. Et du coup, on fait des bagels, on fait des English muffins, on fait des ralottes, on fait qu'est-ce qu'on a d'autre, on va faire des graissins, des crackers. C'est tout ça est en train de se développer. C'est pratique pour l'apéro, c'est pratique pour le matin et tout se congèle et on les fait vraiment dans les règles d'art, c'est-à-dire le bagel, on le fait comme au States, on le trempe dans l'eau avec du miel, enfin on le poche, les English muffins, c'est à la plancha limite comme un pancake, donc c'est hyper long.
Ah ouais.
Mais nous, on le fait vraiment, on mais veut le faire bien, quoi.
Enfin, en plus, c'est rare de trouver ce genre de produits artisanaux.
Exactement. On les trouve qu'au... En fait, voilà, c'est un peu les pains que vous trouvez au supermarché qu'on veut faire maison.
Ouais. Trop bien. Et si on veut résumer votre style, je dirais simplicité, qualité et accessibilité, et gourmandise, évidemment.
Ouais, bah, on essaie. Non, mais c'est sûr que c'est, en fait, les gens viennent pas ici forcément pour un truc hyper light, mais le but, c'est qu'ils se fassent plaisir, quoi. Nous, on dit, en fait, notre réflexion à chaque produit, chaque moment, c'est toujours de dire, mais en gros, toi, c'est quoi qui te fait kiffer? Toi, tu l'achèterais à ce prix-là, ce truc-là, ou tu t'aurais l'impression de te faire arnaquer? Donc, en fait, c'est, on se met toujours dans la peau des clients parce qu'on est, je pense, nous-mêmes la première cible de ce qu'on propose. Et donc, on veut que les gens, en fait, on se dit, non, en fait, ils veulent pas un truc trop compliqué, les gens, ils veulent un truc simple. Les gens, ils viennent tout le temps avec leurs enfants, par exemple. Donc, nous, on en a. Donc, on se dit, bah non, tu viens pas avec ton enfant. T'as pas envie d'un truc. T'as envie d'un truc simple parce que tu sais très bien que sinon, ça passe pas. Enfin, et le prix, c'est pareil, quoi. Après, c'est un challenge parce que c'est vrai qu'en ce moment, les produits coûtent cher. Ouais, donc, maintenir des produits accessibles, c'est pas évident. Et surtout, là, cette fois-ci, c'est l'éducation à faire. C'est un peu plus sur ça. C'est qu'en fait, nous, on utilise quand même des produits de qualité. Et donc, en fait, ça a quand même un certain prix. On essaye vraiment de rester dans une marge raisonnable. Mais voilà, c'est un peu sur ce truc-là que là, en fait, il y a parfois besoin d'explications parce qu'en fait, oui, ça reste, en fait, même si c'est Mamish Traiteur, c'est quand même plus cher que des produits de boulangerie, quoi.
Mais, ce qui explique le succès que vous avez aussi, moi, j'ai l'impression, c'est ce côté, boulangerie de quartier où vous restez hyper accessible. On peut venir tous les jours acheter sa baguette.
Ouais, carrément.
Les brioches à 1 €, ce genre de produits vraiment quotidiens, mais avec une qualité,
Au début, on s'était complètement planté sur les prix, on peut pas se mentir, parce qu'au début, c'était vraiment pas du tout assez cher. Mais c'est-à-dire que c'était n'importe quoi. On n'avait pas confiance en nous, voilà. On avait peur, donc on s'était dit, mais tu sais quoi, on va le mettre pas cher, comme ça les gens ils vont le prendre. Et c'est qu'en fait, au bout de, je sais pas, quelques mois, je sais plus qui nous a dit, mais les filles, vous vous rendez pas compte, là, vraiment, c'est n'importe quoi, vos prix.
D'autant plus si tu fais tout maison, t'as ce côté, charge de personnel.
Bah, bien sûr. Et donc, en fait, il y a un moment, on a un petit peu plus cadré là-dessus, mais en fait, il y a des produits, on s'est toujours dit, faut vraiment pas qu'on augmente pour rester accessible, notamment la tradition à 1 €. Qui est un truc où genre, enfin pour moi c'est un kiff quand parce que c'est vrai qu'il y a du monde et tout, donc parfois les gens ils voient ça comme un lieu un peu branché, voilà. Et en fait quand il y a une petite mamie ou un éboueur ou ces gens-là qui viennent et qui disent une tradition et ils s'attendent à la payer une blinde et qu'on dit ah non 1 €, et là genre voir leur visage genre ah, et genre en plus elle est toute chaude.
Du coup en plus c'est vrai que ils font la queue pour la baguette à 1 €, du coup, et ça fait trop plaisir. Et on essaye de faire un peu pareil au traiteur, c'est-à-dire que au traiteur il y a forcément des trucs qui sont plus chers quand on a des matières premières vraiment élevées, mais on a la gougère à 1 €, on a le fouet-lent, enfin la mousse au chocolat à 4 €, l'énorme truc, parce qu'on veut que les gens, tout le monde puisse bien manger, en fait. Ça nous saoule de se dire on s'adresse qu'à une catégorie de personnes. Enfin, on trouve ça pas très juste.
En fait, je pense que c'est effectivement là le succès aussi que vous avez, c'est que c'est la boulangerie aussi de tout le monde, et pas que des branchés.
Alors le samedi c'est les branchés, et le mardi mercredi c'est les gens du quartier. Mais c'est vrai que le samedi c'est sûr qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent et tout.
Qui viennent,
mais nous on adore,
enfin parce qu'ils ont plus le temps.
Exactement.
Mais ils se mélangent aussi avec.
Mais ils font, les gens du quartier font la queue pour la baguette à 1 €, font là ici les gougères à 1 €, mais
je les ai pas encore goûtées, c'est ma spécialité.
Elles partent très vite, donc c'est rigolo, quoi, de se dire au moins on sait que tout le monde peut bien manger, quoi.
C'est quoi vos 3 produits phares?
Ah bah Mamish, voilà, Babka, chou vanille. On peut pas dire chou vanille, c'est genre un carton plein, le cookie, le...
En fait, moi, c'est drôle parce que nous, on travaille en fait quand même au-dessus de la boulangerie Château, donc on est dedans toute la journée. Donc il y a des moments où en fait, on n'a plus envie de grignoter. Enfin, on est moins là-dedans. Et en fait, encore la tradition, quand je la prends et je la ramène, mais elle fait pas 1 heure, quoi. Et à chaque fois, mais même mes parents, enfin, tout le monde me dit, mais elle est folle. Et en vrai, franchement, elle a un rapport qualité prix que je, perso, sans m'envoyer des fleurs, je trouve, elle est imbattable. Non, mais franchement, je le dis. Pour 1 euro, je pense, parce que le chou vanille, c'est bon, mais c'est quand même du sucre, t'en as pas envie tous les jours. La tradition, c'est le truc, tu le manges à n'importe quel repas, c'est, pour 1 euro, franchement, c'est un énorme kiff, quoi. Elles sont cuites, genre, toutes les demi-heures.
Qu'est-ce qui vous inspire dans la création de vos recettes? Est-ce que, voilà, vous planchez régulièrement sur des nouveautés?
Bah, je pense que, bon, nous, on adore quand même manger, donc on, tout le temps, on ne pense, je pense, qu'à ça. C'est-à-dire, où qu'on aille, qu'on aille dans un petit truc, dans un petit patelin perdu de je sais pas où, ou dans un truc plus haut de gamme, ou qu'on voyage, en fait, c'est quand même notre activité numéro un. Et on regarde tout, enfin, on goûte tout, c'est quand même un peu notre obsession, parce que on adore ça. Donc, ça aide quand même pas mal dans les idées un peu de base. Et après, pour le traiteur, on a passé quand même 1 an à bosser. On faisait 3 sessions de recettes par semaine. Donc, c'était au début vraiment dans nos cuisines perso. On achetait des trucs et tout. On testait. Et on a la chance d'avoir les recettes un peu de famille que nos grands-mères nous ont données, nos parents et tout.
Il y a des trucs qu'on est vraiment allés chercher loin. Genre, moi, j'avais le souvenir d'un pâté de pommes de terre de la marraine de mon père qui habite hyper loin. Genre, j'ai appelé sa fille. Enfin, en fait, on attache une vraie importance à ce que nous, même, on retrouve le goût qu'on aurait imaginé. Bon, après, c'est comme ça reste un commerce artisanal, donc il y a des jours où nos cuisiniers, ils sont moins bien, ils sont malades, donc c'est un peu moins bon que la veille. Il y a des jours où c'est exceptionnel par rapport aux autres jours, parce que c'est fait maison. Mais je veux dire, pour nous, le traiteur, ça nous a redonné un énorme coup de fouet sur la création. La mamiche, en fait, aujourd'hui, on veut pas sortir pour sortir des produits. On veut les sortir parce qu'ils sont incroyables. On veut pas juste dire, ah, en ce moment, on fait pas ces nouveautés chez Mamiche, faut qu'on sorte un chausson aux pommes. C'est un très bon exemple. Le chausson aux pommes, on l'a jamais sorti parce qu'on a jamais réussi à faire un truc à la hauteur. Donc, Mamiche, ça s'entretient, mais de façon très ponctuelle et qualitative pour nous, qui est hyper important. Le traiteur, c'est juste qu'on a démarré avec une page blanche, donc c'était hyper excitant pour nous. Donc, c'est comme si on avait réouvert tous nos bouquins, réouvert tous nos Instagram en se disant toutes les captures d'écran qu'on avait fait, toutes nos photos de voyage, on s'est dit, bah voilà, on a quartier libre, il faut qu'on retrouve tout ce qu'on a mangé et qu'on refasse la même chose. Donc c'était hyper excitant, par contre, gros travail, quoi.
Est-ce qu'un jour vous ferez des cronuts et des New York Rolls?
Ouais, non, c'est pas trop notre del.
C'est pas trop votre.
Non, mais il y a des produits qui sont hyper, entre guillemets, actuels et fashion qui nous plaisent. Je pense qu'à New York, ça a dû être un sacré truc et j'étais pas là au moment où ça a été créé. Mais comme ça se trouve, des gens se foutent de notre gueule en Pologne sur la babka. Tu vois, ils se disent, regardez, avec leur babka, ils sont ridicules. J'en sais rien. Mais c'est vrai que l'aspect trop marketing d'un produit juste pour le sortir, c'est pas notre délire. Nous, on veut juste que nous-mêmes, on soit convaincus quand on le mange et que nos familles ou nos amis, quand ils le mangent, ils aient la même réaction que nous. Et là, on se dit, OK, go, on y va. Mais il y a plein de gens, ils nous demandent le chausson aux pommes. Encore il y a une semaine, moi, quelqu'un me dit, vous avez des chaussons aux pommes? Et on est là, bah, désolé, mais non, on n'a pas réussi, quoi. Pour l'instant, on n'a pas le bon chausson aux pommes. Par contre, le jour où on va sortir, il y a une putain de pression parce que tout le monde, du coup, l'attend.
Ouais, j'avoue. Non, mais en fait, on propose aussi les trucs qu'on a envie d'acheter. Et nous, on n'est pas cliente, en fait, ouais, du New York City. Ouais. Enfin, faut le dire quand même, quoi. Nous, on achètera, oui, faut, mais en fait, on le goûtera, mais par professionnalisme, entre guillemets, mais on n'aurait pas Mamiche, moi, je l'achèterais pas. Non. J'achèterais pas une viennoiserie qui coûte je sais pas combien, qui est rose, orange, verte, truc, moi, ça me...
Vous êtes pas à la recherche de coûts comme ça, enfin, vous êtes plus, comme on disait, dans la simplicité, redécouverte des produits
authentiques.
En fait,
nous, les produits qu'on a, qu'on a eu ce genre d'impact, on ne savait pas en les sortant, genre la babka, nous on savait pas, donc ça me fait trop rigoler parce que ma mère, elle me dit l'autre jour, mais c'est fou, je suis passée dans une boutique, mais au fin fond de Paris, ils avaient une babka. Mais
maintenant, il y en a partout.
Et elle était genre trop fière, elle me disait, mais je te rends compte, ils t'ont copié et tout. Et en fait, nous on savait pas, c'était juste, nous on l'a goûté la babka, typiquement, on l'a goûté à New York, chez Dean and DeLuca qui a fermé depuis, mais on s'est dit, ah tiens, vas-y, on goûte et tout, on a goûté, on était, oh là là, mais c'est quoi ce truc, c'est trop bon. Et en fait, on s'est dit, faut absolument qu'on le fasse, quoi, mais on n'aurait jamais pensé, je veux dire, que ce serait genre une mode. Et donc en fait, c'est un peu ça le truc, c'est que par exemple, le New York City Roll, là, c'est créé pour lancer une tendance, une mode.
Ouais.
Et nous, c'est jamais, en fait, on n'a jamais cette volonté là, quoi. On n'est pas, on n'aime pas trop, on est un peu parfois marketing malgré nous, mais on n'est pas trop dans ce délire. On n'aime pas le marketing food. Nous, on n'est pas du tout. Même à titre perso, c'est marrant parce que souvent on voit des adresses qui ouvrent et tout. Et en fait, il y a plein de trucs. On se dit tout le temps, mais nous, on va pas aller là. Enfin, c'est pas nous, quoi. Ce truc, juste, c'est que à la mode, quoi. Et en fait, nous, c'est pas notre. Je pense, c'est pas nous, quoi.
Petite pause questionnaire, la relève. Qu'est-ce que signifie pour vous la relève ?
Oh, la relève, bah, c'est à l'époque, on était la relève en 2017. C'était nous la relève. Non, mais moi, j'aime bien ce mot, la relève. J'ai l'impression qu'il y a un transfert de savoir, d'une tradition. Je trouve que et c'est plein d'espoir, la relève. J'ai l'impression que genre je regarde le ciel et j'y vais, quoi. Je sais pas, moi, c'est comme ça que je le vois.
Non, mais c'est vrai. Je pense, mais on est contente parce que nous, on a eu plein de gens qui sont eux la future relève, et que je pense on leur a montré un aspect de la. Enfin, je suis sûre qu'ils ont ouvert leur boîte de façon différente en étant passés chez nous. Ouais. Donc ça, je trouve ça cool. Et nous, on est hyper dans la transmission. Enfin, on n'a jamais eu ce truc de genre, on prend pas de stagiaires, on prend pas parce qu'on veut pas donner nos recettes et tout. Ouais. Nous, on s'en fout, quoi. On est en mode, bah, si tu veux le faire, fais-le. C'est un peu con, mais bon.
Ce sera très dur, mais fais-le.
mais ça, c'est chouette parce que en vrai, c'est cool. En tout cas, surtout dans ce milieu de la boulangerie, parce que encore, je trouve la restauration, c'est différent, mais en boulangerie, il faut qu'il y ait une relève. Et il faut qu'elle soit sincère. Moi, c'est un peu le truc. Je pense que c'est le truc que nous, on essaye d'inculquer, mais qui est hyper difficile. C'est que comme nous, on l'a pas fait dans un but marketing et dans un but, on l'a jamais fait pour de l'argent, quoi. En fait, notre volonté première a été très sincère. Et moi, c'est ça que nous, on arrive, enfin, qui est dur à transmettre, c'est cette sincérité, parce que on voit plein de boulangeries qui ouvrent. Et on le sait, c'est pas du tout des gens qui ont cette volonté-là, quoi. Ils font les grosses miches de pain, les trucs et tout, mais c'est que business. Et ouais. C'est que pour lever des millions, et c'est que. Et en fait, nous, on est là, aïe, 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 mais en fait, vous n'avez rien compris à ce qu'on est en train de faire. Non, mais c'est vrai, parce qu'on en a vu plein. Quand on voit, ouais, ils ont levé 10 millions pour ouvrir 10 boutiques, on est à mode. Donc, c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Et des
propositions parfois.
De rachat?
Ouais, de rachat, de franchise, ou même des gens qui sont interloqués par le fait qu'on ait que deux boutiques, disent, mais je comprends pas pourquoi vous en faites pas plus. Et je comprends pas pourquoi vous engagez pas plein de gens dans les bureaux pour qu'en fait, vous ayez plus à passer tous les jours. Et en fait, nous, on est là, mais en fait, alors peut-être qu'un jour, on sera trop fatigué et on aura besoin de sauver nos miches et sauver la niche de nos employés. Et voilà, on le fera. Mais je veux dire, là, l'optique, c'était pas du tout de se dire, bah ouais, on va inonder le marché et puis on va se faire full thune et on se casse, quoi. Nous, c'était de créer un commerce qui va durer dans le temps. Moi, mon rêve, c'est que dans 20 ans, même si ça se trouve, c'est plus moi chez Mamie, j'en sais rien, c'est que Mamie, je reste une institution comme j'aurais pu aller, je sais pas, c'est quoi les institutions où on est allé, je sais pas, bref. Non, mais au Pays Basque, il y en a plein. Enfin, il y a des endroits où tu sais que tu vas à chaque fois parce que tu sais que ce sera toujours délicieux, quoi.
Votre nouveau kiff culinaire.
Mais du coup, nous, je crois que c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas de nouveau, c'est que nous, c'est tout ancien, nos kiffs. C'est genre, je sais pas si j'ai un nouveau kiff. Non, mais est-ce qu'on a le droit de dire qu'il y a des trucs que quand on était petit, on pensait que c'était toujours mauvais? Genre, par exemple, je sais, celui de Cécile, elle détestait les lentilles. Moi, je déteste toujours. Mais elle a, depuis Mamiche, on s'était toujours dit, on fera une salade de lentilles parce que c'est cool. Enfin, on trouve ça bien. Et elle a goûté, elle a trouvé ça délicieux. Et j'ai dit, putain. Alors, moi, j'ai pas trouvé ça bon toujours, mais je veux dire, du coup, c'est un nouveau kiff, les lentilles. C'est un peu comme moi, les anchois. J'aimais bien petite, mais là, maintenant, j'aimais bien. Mais là, je suis devenue complètement obsédée par les anchois. Bah, j'en mange 3 fois par semaine, quoi. Ah ouais. C'est ça? Ça peut être ça? Bah voilà.
Totalement.
Les anchois et les lentilles, c'est pas grave du tout.
Votre livre de recettes secret?
Moi, je peux dire, ma grand-mère, elle m'a fait un livre de recettes à Noël. Trop mignon. Elle est allée sur Internet. Et tu sais, elle a fait les trucs où tu pré-remplis. Sauf qu'elle voulait vraiment que ce soit sa pâte. Du coup, elle a tout écrit à la main, elle a tout scanné.
Tellement mignon.
Elle a demandé à ma tante de faire des dessins et tout. Et genre, il est trop mignon. Elle écrit des petits mots à côté, genre la petite astuce. Et elle nous a tous donné ça à tous ses petits-enfants. Où il y a toutes ces recettes spéciales. Il y en a 10. Mais genre, il y a le gratin de cardon au gras, enfin avec du gras de canard.
Très lyonnais, tout ça.
Ouais. Il y a genre la bûche au beurre, mais au beurre. Le goût, c'est beurre. C'est pas beurre chocolat, beurre noisette, c'est beurre. Enfin, il y a les bugnes, il y a les gougères au fromage. Enfin, bref, c'est trop. Et du coup, je l'ai toujours, et je l'ai amené à Cécile quand on a ouvert le traiteur.
Non, et on a fait quand même, c'était trop mignon parce que Vic, elle arrive avec son petit livre et tout, toute fière, trop mignonne. Et donc, je lui dis, bon, bah, vas-y, on fait ça et on va faire, on faisait toujours quand on faisait des tests plein de recettes en même temps. Et donc, on fait dégustation à l'aveugle. et donc on fait goûter à Vic qui n'a pas choisi les gougères de sa grand-mère. Et donc là, c'était la fin du game, quoi. Ben, mamie, elle y a mis tout son cœur. Non, franchement, Granny, bah, c'est un dérivé de la recette de Granny. Mais quand on a goûté, c'était quand même.
Mais on a gardé deux, trois petites
touches. Des...
Surtout, c'était tout. T'es en mode un verre de fromage. Oui. Et nous, on est là. Ah, ouais. Comment on fait un verre de fromage? C'est que des trucs comme ça, genre peu précis.
Petite technique. Alors, 50 verres de fromage.
Elle met des vraies lamelles à l'intérieur.
Ah oui,
c'est ça, pas ça, genre ça, méga aérien. Pas... Parce qu'elle met des grosses lamelles. Donc, du coup, nous.
Ça retombe ou
voilà,
ça.
Ça ouais. retombe, mais par contre, c'est full fromage, quoi. Et ça, on l'a gardé.
C'est fait un mix. Une technique découverte récemment ou redécouverte.
Une technique. Moi, ces derniers temps, j'utilise beaucoup. Ben, en fait, je suis allée au Japon il y a un an, enfin février dernier, et j'ai ramené deux trucs qui, j'avoue, m'ont changé ma cuisine. En tout cas, c'est très bête, mais si tu peux te les ramener, fais ça. Un truc, c'est une mandoline, mais dans les deux sens. Donc, au lieu de faire toujours dans le même sens, c'est et donc ça va, mais si vite, c'est juste incroyable. Ah bah ça, alors attention les doigts, parce que voilà, mais incroyable. Et après, une sorte de j'ai ramené un autre truc, une sorte de grill un peu, un truc, tu sais, avec des stries, quoi, pour faire un peu teppanyaki style. Ça, alors, ma maison est devenue une sorte d'izakaya, plein de fumée, genre ça, j'ai allumé 10 fois le truc incendie, mais ça donne quand même un goût de ouf.
Moi, je technique, c'est difficile. C'est pas vraiment
Tu rigoles.
Quoi?
Bah, la friteuse.
Ah ouais, non, je me suis acheté une friteuse, j'ai craqué. Depuis que j'ai un enfant, je me suis dit, c'est pas possible, le dimanche, c'est frites, quoi.
Et donc, tu l'utilises beaucoup?
Ben, je viens de l'avoir, donc je l'utilise tout récemment. Mais je veux dire, moi, ma maman, elle avait, dans son plan de travail, incrusté à l'intérieur, dans l'inox,
le
une
rêve.
Friteuse. Et tous les dimanches et tous les mercredis, c'était poulet frites, purée frites, pas purée frites, fish and chips, jambon frites, burger frites. Enfin, c'était les frites, quoi. Et maison coupée à la main, machin. Et donc, j'ai dit, je peux pas passer à côté de cette tradition. Et j'ai aussi, mais c'est pas vraiment une technique, c'est que maintenant, j'adore laisser au frais des pâtes ou du riz qui durcit la nuit. Tu sais, tu fais cuire des pâtes ou du riz et je les laisse vraiment durcir, tu sais, limite rassir et après tu les fais griller à la poêle. Genre soit avec de la sauce soja, le riz ou même le tu vois, les pâtes qui grillent sur la poêle, ça le fait pas quand elles sont fraîches, tu vois, enfin du jour. Voilà, donc ça c'est ma passion du moment.
Le chef ou la chef montante à suivre?
Bah nous, on a toujours dit le rigmarole parce qu'on a une passion ultime pour eux. On trouve que c'est exceptionnel ce qu'ils font. Ils s'écoutent vachement, donc c'est cool que les gens assument ça.
Ils rouvrent au déjeuner.
Voilà, on a vu. Mais bon, nous, le déjeuner, c'est vrai que c'est compliqué pour nous, donc on est dégoûtés. Mais par contre, je trouve que, en fait, à chaque fois que j'y vais, je me dis, tain, c'est galère d'y aller pour réserver tout. Mais je suis jamais déçue.
C'est exceptionnel. Et un nouveau compte Instagram que vous voulez nous faire découvrir?
Moi, j'ai découvert la Green Cup là que je t'ai mis. Je sais pas si t'as vu. Greek Cup.
Ah oui,
oui.
Il nous a envoyé un message.
Oui, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a des gobelets ici qui imitent un tout petit peu les gobelets grecs qu'il y a aux États-Unis.
Les gobelets bleus.
Les gobelets bleus, là, un peu cheap. Je sais pas si tu vois. Non. Bah bref, et du coup, on les a imités un peu et il y a quelqu'un qui nous a tagué et qui cherche tous les gobelets, qui collectionne tous les grecs gobelets. Il y en a tellement. Et moi, ça a été mon petit kiff de regarder, mais bon, c'est pas de la food.
J'aime bien, il y a Amuse-Bouche qui est pas mal, qui est très, elle, son format, c'est ce que j'ai vu et que j'ai envie de tester, ce que j'ai pas encore testé mais qui me fait envie, et elle lit genre juste 5-6 trucs, et ça je trouve ça pas mal parce qu'en fait souvent, quand tu sais pas quoi manger ou tu sais pas où aller, tu te dis, et tu sais, nous on a toujours nos petites listes et tout, et là en fait elle, tu vas sur ses posts, c'est en mode t'as les 10 trucs un peu, en général t'as envie d'essayer au moins un ou deux, donc ça c'est pas mal, ouais, j'avoue.
Cool. Est-ce que vous vous sentez plus boulangère ou entrepreneur?
Alors c'est toujours drôle parce que quand les gens nous demandent ce qu'on fait,
tu dis quoi?
Moi je dis toujours boulangère. Et les gens nous regardent toujours chelou. Faut dire la vérité, genre. Hein. Mais en réalité aujourd'hui, je dirais qu'on est quand même 50-50 parce que en fait le côté entrepreneuriat a pris une place énorme parce qu'en fait on gère tout l'admin derrière,
60 personnes,
la compta, ouais, le RH, le machin et tout, c'est quand même ça prend quand même une partie énorme de notre job. Après on reste quand même boulangère dans le sens du commerce parce que en fait ce qui est assez marrant c'est que même les nouveaux arrivants, les nouvelles recrues chez Amuse-Bouche, il y a toujours ce truc qu'on en fait qu'à un moment ou à un autre on leur explique personnellement de ce que c'est que ce commerce-là, en fait. Que c'est un commerce de quartier, que c'est la boulangerie du coin, c'est quoi la boulangère. Enfin, on est quand même obligé de réexpliquer un peu ce concept et ce qu'on a voulu en faire. Donc, ça reste quand même un truc qui est, je trouve, hyper, hyper présent. Mais maintenant, c'est aussi traiteur, donc...
Non, mais oui. Non, mais en vrai, concrètement, on est beaucoup moins dans les labos qu'avant. Enfin, surtout en boulangerie, parce que je pense qu'on aurait du mal à suivre le rythme qu'ils ont aujourd'hui, parce que nous, quand on a démarré, ça avait rien à voir. Mais on reste boulangère. Enfin, on essaie de rester au max dans nos têtes boulangère pour une fois de plus, pour comprendre que ce soit aussi bien les employés que les clients, se mettre à leur place. Après, effectivement, il y a le côté business qu'il faut pas oublier. Mais en fait, c'est drôle parce qu'avec Cécile, on est obligé de se rappeler parfois de faire des réunions business tellement on est dans l'opérationnel du juste la boulangerie. Commander la farine, les fournisseurs, comment on fait pour avoir la meilleure qualité, comment on fait, du coup, ça a augmenté pour garder cette qualité-là. Donc en fait, on est quand même, on va pas se mentir, 80% du terrain. Et nous, parfois, on se rappelle alors toutes les deux en disant, meuf, ce serait bien qu'on se voit pour parler des chiffres, pour parler de comment on évolue, de est-ce qu'on embauche quelqu'un ici, est-ce que machin. En fait, c'est plutôt un rappel qu'on se fait d'être entrepreneuse. Et dans l'âme et dans la, et de tous les jours, on reste quand même vachement sur le terrain, quoi.
Et quel est votre quotidien aujourd'hui? Comment vous vous répartissez les rôles?
Non, mais on passe tous les jours dans toutes les boutiques, à peu près goûter ou faire même, ne serait-ce qu'un quart d'heure de vente pour se rendre compte de toujours les retours clients, même nos employés, voir ce qu'ils vivent aussi au quotidien. Et ensuite, au niveau de la répartition, on est un peu kiff-kiff, en fait. On essaie d'être toutes les reins, toutes les deux. Et puis, je pense que le fait d'avoir eu deux grossesses, enfin, chacune grossesse, on a dû aussi apprendre le rôle de chacune. Ce qui n'était pas du tout le cas avant d'avoir des enfants. On avait chacun nos domaines. Maintenant, on essaye, même si on a chacune nos spécificités, mais on essaie de tout faire un peu ensemble. Moi, je prends beaucoup les photos parce que j'ai toujours adoré ça. Et Cess, elle est vachement plus sur les matières premières, sur avec les fournisseurs et tout ça. Mais c'est important pour nous de, pareil, de se rendre compte chacune de notre taf. Quoi. Et on a encore une adresse commune, une adresse mail commune pour nous deux.
C'est vrai.
Ce qui est ridicule, après 7 ans, on devrait chacune avoir. On dit, t'as lu le mail de machin, t'es sûr que tu l'as, parce que nous, moi je l'ai ouvert et j'ai peur qu'elle passe à côté.
Ouais.
Mais c'est ridicule, mais en fait c'est important en fait. Mmh. On voit tout, on est très transparente quoi.
En fait, on s'est créé les deux fameuses adresses mail, mais on n'arrive toujours pas à s'en servir. Ouais. Et en fait, oui, je pense que depuis le début, ça a été fait un peu comme ça. Vic, elle est plus sur la com et tout. Et effectivement, moi, je vais plus être en backstage sur d'autres trucs. Parce que, en fait, on sait faire, mais juste, on prend trois plombes et on est...
Est-ce que, par exemple, Victoria, tu t'occupes plus de la production et toi de la vente ou pas du tout?
Non, ça, pour le coup, c'est plus par... Victoria, elle est quand même beaucoup plus au fait sur tout ce qui est pain et viennoiserie. Et moi, quand même plus sur tout ce qui est pâtisserie, sandwich.
Okay.
Donc, en fait, c'est plus ça. Mais après,
de produits.
Bah parce qu'en fait moi j'ai fait des stages en boulangerie donc ouais. Je sais faire du pain mais je maîtrise quand même un peu moins et l'inverse aussi sur la pâtisserie donc en fait on se répartit plus comme ça.
Et vous boulangez encore ?
On l'a fait beaucoup pour les tests là. Enfin, ouais. On s'est remis en fait à faire des essais de pain, plein de choses pour le traiteur. Mais c'est vrai que maintenant, Mamiche, à part quand il y a des nouveautés où ça peut nous arriver de descendre et d'en parler, et du coup d'explorer des nouveaux produits. Mais je veux dire non, on va être honnête. Ça nous est arrivé par exemple beaucoup pendant le Covid. Moi, j'ai vachement remplacé des gens dans le fournil. Mais je veux dire plus jamais. Je viens à 1h du matin. Maintenant, on a des gens qui sont là pour nous quoi.
C'est plus que nous, on a des techniques qui sont entre pro et à la maison. En fait, ce qui est marrant, c'est que souvent, quand on fait des tests ou quand on travaille avec... Parfois, on sait que les équipes, ça les fait marrer de faire des tests avec nous. Donc, on leur dit, vas-y, t'es en charge de ce test-là, on va le faire ensemble et tout. Et en fait, ce qui est marrant, c'est quand on leur demande, souvent, ils tapent sur un truc qui est toujours hyper pro et tout. Donc, on a... Attends. Et donc, on descend avec eux dans les trucs et ils nous regardent faire et ils sont là genre, wow, mais non, mais si, tu vas voir. Et en fait, après le résultat, ils sont là, ah ouais, mais j'aurais jamais cru. Et on est en mode, mais oui, mais en fait, faut ce truc un peu...
Maison, quoi.
Bah, enfin, c'est non, pas maison, ou... mais il faut ce biais quand même, ouais. Parfois, du ouais. Côté. En fait, moi, je l'ai fait chez moi et ça ouais. A rien à voir avec le fait de le faire dans un gros labo. Et souvent, après, ils sont hyper contents du résultat, mais ils y croyaient pas du tout.
Ouais, c'est un mélange finalement entre les deux, entre résultat, vision un peu produit hyper ouais. Maison artisanal et le côté pro mélangé. Quoi.
Bah souvent, par exemple là au traiteur, on a eu plein de fois des trucs où en fait on dit aux gens on a une fiche recette qu'on a fait nous, on leur donne et tout et tout n'est pas décrit à la lettre et donc ils font hyper carré. Et nous, quand on arrive, on est en mode, oh là là, mais attends, mais c'est hyper régulier, c'est tout parfait, pourquoi et tout. Et donc, ils me disent, bah, j'ai pris un emporte-pièce pour faire nickel. On est en mode, ah non, mais surtout pas, tu prends pas un emporte-pièce, tu le fais comme ça, on s'en fout. Enfin, et pour eux, au premier abord, c'est, bah, c'est pas comme ça qu'on fait, quoi. Mais bon, nous, c'est comme ça qu'on fait.
Est-ce que vous vous sentez à votre place aujourd'hui?
Non, mais si, quand même. Enfin, en fait, ce qui est non,
après
c'est pas,
ces
c'est pas ça. C'est que je me verrais pas dans une autre place, en fait. C'est que je vois pas, en fait, où d'autres je serais bonne à faire ce qu'on est en train de faire. Donc le traiteur, ça a vachement déstabilisé le. Déjà, on était deux pour deux boutiques, ce qui avait quand même tendance à être facile à gérer, parce que une en prend une, l'autre en prend l'autre. Enfin, quand il y a besoin, c'est facile de splitter. Donc trois boutiques d'un coup, c'est quand même autre chose. Et on a appris un peu des nouveaux métiers. C'est une façon de consommer des gens qui est hyper différente. Donc ça, ça a quand même pas mal chamboulé le... Et ça nous a mis des doutes quand même à un moment. On s'est dit genre, est-ce qu'on a bien fait de se lancer dans un peu un nouveau métier et d'essayer de rajouter cette corde à notre arc? Mais en fait, finalement, oui. Enfin, je veux dire, c'est bien, mais ça nous a, je pense, ça nous a mis un doute qu'on n'avait plus depuis un petit moment quand même.
Justement, moi, c'est ça que je trouve bien. Enfin, quand on dit on est à notre place, moi, j'ai le sentiment quand on me dit t'es à ta place, c'est quelqu'un qui a confiance en soi, qui a sa place, quoi. Je pense qu'on est à notre place, qu'on se verrait pas faire autre chose, mais là, le fait d'avoir fait le traiteur, c'est bien parce que j'ai toujours le sentiment qu'on est comme au démarrage, on reste quand même un peu naïf. Par exemple, le traiteur, c'est un très bon exemple. On pensait pas avoir tout ce genre d'obstacles et tout ça. Et puis, on n'a pas 100% confiance en nous. Il y a plein de fois avec Cécile, on se regarde, on dit, mais t'es sûre? Mais c'est trop cher? Ou mais non, mais comment on va faire? Mais non, mais les gens, ils vont penser ça. Enfin, on est hyper à l'écoute de ce qui se passe. Et on n'a pas, enfin, moi, perso, je serais pas à l'aise de regarder quelqu'un en disant, ouais, je maîtrise tout et je m'en fous. Enfin, on est à notre place, mais on est encore très fraîche, très neuve, en fait. Très naïve de tout ce qui peut nous arriver.
Oui, et puis souvent, dès qu'on est invité dans un truc, dès que quelqu'un nous appelle pour une collab et tout, nous, parfois, on est là, quoi? Mais ils se rendent compte, ils nous ont appelé, nous, mais c'est ouf. Hein, je me souviens, et ça reste encore maintenant. On est toujours hyper sur le cul, on se dit, ils te rendent compte, genre les gens d'avant, c'est machin, mais pour moi, c'est genre mon idole. Enfin, et ça, c'est quand même, on reste quand même, je pense qu'on se rend pas compte aussi. Parfois, les gens, ils disent, ouais, mais vous avez fait ci, ça, mais. Comment dire? Nous, on n'a pas du tout de recul. Enfin, là, on en a, parce que quand on en parle comme ça, ça nous aide à le prendre. Mais je veux dire, en fait, on a quand même beaucoup. Ça fait combien de temps? 2016, hop, ça va faire 6 ans qu'on a quand même la tête dans le guidon, mais bien dedans, quoi. Et donc, en fait, non, mais je veux dire, tu vois, parfois, il y a des gens qui me disent, ouais, mais vous avez fait ci, ça. Et on est en mode, mais en fait, quand ça s'est passé, ouais. Nous, on était juste en train de se lever à 4 heures du mat.
Souvent, le succès, on l'a jamais. On l'a jamais profité.
Oui. Ouais.
On se dit souvent, mais viens un jour, on se fait kiffer, genre, on a quand même fait tout ça et tout. On a fait des mini kiffs, on s'est regardé toutes les deux droit devant en disant, on peut être fiers de nous, on y est arrivé, mais c'est rare. Mais jamais on s'est dit, genre, c'est ouf, regarde ces gens, non, enfin, c'est rare.
Et nous, on est très exigeantes aussi. Ouais. Donc,
et quand t'es entrepreneur, ouais. Tu regardes toujours, demain aussi. Moi, je trouve qu'il y a un truc, ouais. Tu regardes pas dans le passé, le succès, il est, un peu dans le passé, et t'es plutôt à penser à, bah, il faut que ça marche encore.
Bah, bien sûr.
Il faut que ça continue. Bah, et
typiquement,
en fait, tu penses à ton projet d'après, mais
bah,
pas
ouais.
À,
bah, toi, c'est pareil, ouais. En fait,
et pas,
si je trouve ça
pas
dur.
Derrière, et t'es dans demain, quoi.
En fait, t'as l'impression que pour être légitime en tant qu'entrepreneur, il faut que ça dure encore. Mmh. Toujours. Mmh. Mais du coup, tu sais pas quand le mot de fin va arriver, enfin, si un jour tu vas te dire, c'est bon. Je sais pas si
j'ai
toi
réussi.
Ça te fait ça.
Bah si, c'est complètement. Ouais.
Ouais, tu te dis, est-ce que du coup, faut toujours que je me renouvelle, faut toujours que je trouve une nouvelle idée, faut non, mais peut-être qu'un jour on se dira, bon là, je pense ça y est.
Bah, non,
peut-être.
Notre entourage nous aide pas mal à ce constat parfois, se dire genre vas-y, redescends 2 secondes, on se calme, on regarde un peu ce qu'on a déjà fait. Mais c'est vrai que nous, on est tout le temps en train de se dire, mais non, mais tu comprends pas, là c'est pas assez bien, et là, et nous, on est très très exigeantes, donc. Donc on a tout le temps envie que ça soit mieux, quoi.
Chiant, quoi.
Bah non, mais on est non parce qu'on est. En fait, faut pas dire chiante parce que ça c'est juste typiquement genre la meuf chiante. Non, on n'est pas chiante. On est exigeante. On serait un mec, jamais on dirait on est chiant. On est juste, on est exigeante. On veut que ça soit comme ça soit, quoi. En fait, et donc c'est ça.
Je vois très bien de quoi vous voulez parler. Les réseaux sociaux ont aussi soutenu le succès de Mamiche. C'est important dans votre business.
Ouais, on en a parlé récemment, je sais plus à qui, mais en fait, alors nous, c'était pas du tout une volonté. Déjà, à l'époque, c'était pas non plus Instagram, c'était nouveau, hein. Enfin, c'était pas un outil encore hyper, hyper connu. Mais en fait, c'est juste qu'on le dit, on l'a fait très naturellement. C'est ce qu'on disait souvent, c'est que sur Instagram, on avait plus l'impression de parler à nos potes et à nos familles, de leur montrer ce qu'on faisait tous les jours, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'il y avait des inconnus qui commandaient. On s'est dit, ah, oh, mais en fait, il y a pas que nos potes, c'est génial et tout. Et je pense que ça, on a toujours été très naturel. On s'est vachement amélioré avec le temps, mais on n'a jamais dit volontairement, il faut que je poste ce truc absolument parce que sinon ça va pas marcher. C'est plutôt nous, on se dit, ah, bah, tiens, cette photo est jolie ou, ce produit est génial et du coup j'ai eu l'occasion de le prendre en photo l'autre jour donc je vais le poster. Mais après on va pas se mentir, c'est un outil qui est incroyable pour nous. On reste un commerce de quartier, c'est gratuit. Alors oui, il y a des effets pervers, parfois on se reçoit des commentaires qui sont négatifs, mais parfois c'est constructif aussi. Mais je veux dire, pour nous ça a été un tremplin, mais enfin je connais plein de boulangeries qui ont mis des tonnes d'argent dans des agences de communication. Nous, on n'a jamais mis ne serait-ce qu'un seul euro dans de la com. Si, pour faire des flyers, c'est tout, mais qui venait de nous. Mais je veux dire, on n'a jamais payé une agence de com, on n'a jamais fait de la pub volontaire. Et en fait, Instagram, c'est gratuit. Ça vous permet de poster tout ce que vous voulez. Si vous voulez ne pas dire, bah, on dit pas. Si vous voulez dire, au contraire, nous, ça nous est déjà arrivé de mettre du sel dans la babka et de dire, aujourd'hui, on a mis du sel dans la babka. Désolé, revenez tous et on vous offre un truc en échange. Mais je veux dire, c'est quand même incroyable, quoi. À l'époque, nos parents, pour se faire connaître, c'était 10 fois plus long. C'était que un quartier parce qu'en fait, les gens de à l'autre bout de Paris connaissaient pas votre commerce. Là, le samedi, on va pas se mentir, c'est de la clientèle Instagram.
Ah ouais.
Mais pas dans le mauvais sens, parce que nous, ça nous dérange. Il y a plein de gens qui disent, ouais, c'est chiant, il y a que des touristes, il y a que des gens qui viennent prendre des photos Instagram. Ouais, mais c'est le jeu, en fait. Faut l'accepter. Et moi, les touristes, je trouve ça génial. On a eu récemment une grosse surprise, c'est qu'il y a quelqu'un du Mexique qui nous a montré une vidéo YouTube du Mexique, d'un Mexicain, qui décrit nos produits et qui dit, je veux tout ce qu'il a pris sur la vidéo. Non, mais ça aurait jamais pu arriver autrement, quoi. Donc c'est un outil formidable et même si ça a des effets pervers et même si on est clairement pas au niveau, moi on appelle toujours mon petit frère ou des jeunes employés qu'on a qui maîtrisent Instagram pour nous aider. On a posté notre premier réel grâce à mon petit frère il y a 3 semaines. On était regarde, j'ai posté un réel et elle se foutait de ma gueule. J'étais là, je sais même pas, mais apparemment c'est stylé. Ouais, on n'a pas Snapchat, on n'a pas comment ça s'appelle TikTok. On est vraiment on est quand même assez limité, quoi.
Il y a ce truc où en fait faut juste pas tomber. Nous on n'est jamais tombé dans on fait pour Instagram. Ouais. En fait, nous on fait ce qu'on fait
pour rester
spontané.
Et je
pense au début ça nous a aidé de ouf parce qu'en fait ça nous a permis d'expliquer plein de trucs aux clients. En fait, on s'en servait pour leur dire on va fermer lundi. Typiquement pendant le Covid, on a expliqué plein de trucs. Il y avait plein de trucs genre typiquement qu'il y ait des trous de produits, le backstage aussi que les gens montrent peu quand même. Enfin, qu'ils montrent, mais souvent c'est complètement fake, c'est tout beau, tout propre, tout machin. Nous, on le montrait pas tout beau, tout propre. On montrait, bah, la réalité, c'est quand même, il y a de la farine partout, enfin, voilà, quoi. Et ça, au début, c'était trop cool, je pense, pour nous, parce que on était hyper fiers de montrer ça, et en vrai, ça nous faisait assez marrer. Enfin, on trouvait ça drôle. Après, maintenant, ça, on le fait peut-être un peu moins, parce que si, le temps fait qu'il y a moins, peut-être un peu moins de trucs à dire, et les gens ont plus l'habitude. Mais nous, on continue de produire et de faire des trucs juste pour, qui sont bons, pour faire kiffer les gens, et on produit pas de trucs qui sont pour Instagram. Genre, on fait pas de collab, voilà, on fait pas de produit marketing, on a tout le temps des marques, des petites marques qui viennent nous voir, genre, qui n'ont rien à voir avec nous, qui nous disent, ouais, vous voulez pas qu'on fasse un pain collab, truc, vous voulez pas qu'on fasse une soirée blogueuse à la boulangerie, mais on est là, mais les gars,
soirée blogueuse.
Non, mais on a eu plein de ça. Et en fait, nous, on est là, mais non, en fait, on fera jamais ce truc-là, et là, je sais qu'il y a François Simon qui a fait un énorme article sur, genre, les restos, réseaux sociaux, etc. Et en fait, je lisais le truc et je me disais, bah, je suis contente parce que nous, on n'est pas là-dedans, quoi. En fait, on n'est pas dans, on ne vise pas ça, on ne veut pas particulièrement
ça. Vous êtes spontané. Et
en fait,
vous restez dans l'authenticité.
Ils sont toujours hyper sur le cul quand ils viennent. Enfin, moi, je trouve, parce qu'en fait, ils s'attendent justement à un truc très Instagram parce que ils voient et tout. Et en fait, quand ils rentrent, moi, je vois dans leurs yeux qu'ils sont là, genre, ah ouais, en fait, c'est une petite boulangerie, mais c'est blindé de produits et c'est pas, entre guillemets, tout clean, tout nickel. Pas du tout. Et genre, en fait, on offre quand même la chouquette à leurs enfants comme s'ils étaient un petit parisien et tout. Et c'est pas, je sais pas comment dire, qu'on n'est pas dans le truc full selfie, pain au chocolat. C'est pas notre, enfin, nous-mêmes, on venait même pas sur les réseaux sociaux, quoi. Enfin, je veux dire, on s'en sert que pour le, entre guillemets, que pour le travail, quoi.
Mais quoique vous avez amélioré, je veux pas dire amélioré, mais je veux dire je voulais parler de la décoration du traiteur.
Ah ouais. Bah ça,
C'est aussi des années d'expérience.
Bah, ça, bah, on a toujours galéré parce que le premier mamiche, on n'avait pas une thune. Donc, on a fait un peu comme on pouvait. On s'est fait. Les gens étaient en mode, mais je ne comprends pas, les murs ne sont pas finis, c'est dégoûtant. D'ailleurs, on l'a vu il n'y a pas longtemps, celui-là. On était en mode, bah non, on a mis un vernis alimentaire, on n'est pas folle quand même. Ouais. Enfin, on fait des trucs comme ça. Après, on a ouvert la deuxième, on a refait Condorcet parce que c'était
mais
dans
là,
un état pas possible.
Ce qui n'était pas le cas pour le premier. Ouais. Le premier, c'était vraiment genre, on avait juste un maître d'œuvre et nous, on était les archis, quoi.
Ouais, et puis il y avait un. Enfin, de souvenir, il y avait un plan de travail et
oui,
c'était assez
limité, quoi.
Il y avait des
trucs qu'on avait chiné au Pouce de Lion, qu'on était allé chercher nous-mêmes et on avait trouvé un petit artisan qui nous l'avait redécoupé la bonne forme, machin. Ouais. Donc tout a toujours été comme ça. Là, on a fait avec Uchronia, mais qui nous a vus comme des ovnis, parce qu'on faisait des rendez-vous et on lui disait, il disait, non, mais donc on va te faire un truc comme ça. On disait, ah non, non, mais pas du tout. Donc on disait tout le temps, non, ça on n'aime pas. Non, ça on n'aime pas. Et c'est en mode, waouh, les filles, mais. Déjà, vous aimez
ça
quoi
reste parce que... Ça reste assez simple, en fait, par rapport à ce qu'il fait d'habitude
bah,
aussi.
C'était une vraie volonté.
J'avais même pas capté qu'au début, enfin, quand je suis rentrée la première fois, je fais « Waouh, il est trop beau, le sol !» Mais c'est vrai que j'avais pas du tout pensé que... Enfin, ça faisait très naturel.
En fait, on voulait que ce soit pas trop chargé, même s'il y a quand même des choses à assumer, les carreaux au sol, les carreaux au mur, dans le petit labo, mais parce qu'on s'est dit, c'est quand même un commerce de vie. Et faut que les gens, faut pas qu'ils soient lassés avec des trucs complètement multicolores tout le temps. Par contre, Uchronia, je les ai trouvés top là-dessus parce que justement, ils ont su nous donner les touches qui étaient plutôt assez un peu folles et du coup hyper identitaires à ce lieu. Mais en même temps, ils ont compris qu'on voulait un truc de tous les jours. Et puis franchement, on va pas se mentir, on n'a jamais eu des archis autant à l'écoute et autant rigoureux sur. Enfin, c'est la première fois qu'on a presque pas de retard. Enfin, c'était vraiment un bon match. On le dit parce que nous, on a beaucoup. Alors, on dit pas que les autres ça a été compliqué, mais là particulièrement, ça s'est hyper bien passé et trop plaisant de travailler avec des gens qui vous guident et qui vous écoutent, quoi. Voilà, donc chapeau bas, Uchronia.
Il disait tout le temps, genre en gros, je fais exprès de vous proposer du délire. Parce que je sais que vous allez tellement dire non de base, mais au bout d'un moment, ça commence à rentrer un petit peu. Et on a fait des petits trucs que je pense que nous-mêmes, on n'aurait pas du tout imaginé. Mais genre, au début, ils se foutaient de notre gueule quand on était en mode, mais non, mais là, tu mets une vieille planche en bois vintage, on va te trouver ça sur le bon coin. Et ils disaient, non, mais les filles, bah non. Et donc, en fait, c'est un super entre-deux entre leur identité à eux et nous, ce qu'on a toujours fait, qui est vraiment du bric-broc. Bon, alors parfois, c'est très peu pratique à l'usage, mais on a quand même beaucoup fonctionné comme ça. Et je trouve cette boutique, c'est un bon mélange de ça.
Quel conseil pouvez-vous donner à ceux qui veulent entreprendre dans la boulangerie ou autre?
Je pense, on dit souvent aux gens de garder leur un peu de la naïveté que nous on a eu, parce qu'en fait je pense que nous ça nous a sauvé de pas savoir plein de trucs. Je pense qu'aujourd'hui les gens ils sont quand même vachement plus au courant, donc franchement si vous arrivez à l'avoir la naïveté
comme nous à l'époque, si tu t'adresses à des jeunes, ils sont naïfs, c'est normal, ils ont moins d'expérience, mais des gens de notre âge effectivement ils sont plus au courant maintenant.
Mais moi c'est plus en fait je sais pas si ça a marché exceptionnellement pour nous, mais je pense pas, parce que je pense que les trucs qui durent ça reste quand même toujours là-dedans, c'est d'être sincère dans la démarche en fait. Je trouve les commerces de bouche, la gastronomie et tout, et surtout en France, c'est en fait les gens qui ont perduré dans le temps. Je pense que c'est quand même des gens qui avaient une démarche sincère derrière, qui se foutaient pas de la gueule des gens et qui faisaient pas ça que pour l'argent, que pour la fame, que pour ce genre de truc. Et en fait, moi, c'est juste ça que je voudrais dire aux gens, c'est qu'en fait, faut quand même le faire un peu avec le cœur, quoi. Sinon, alors ça va
c'est
cartonner pendant deux ans.
C'est tellement dur que il faut.
Bah ouais, mais
dur.
C'est surtout, en fait, c'est bien de faire des choses qui vont durer, qui marquent un peu le. Enfin, en fait, c'est bien en même temps d'ouvrir une boîte, de gagner 10 millions, de vendre et de faire autre chose, sûrement. Mais je trouve que dans la... Non, mais dans la foot, c'est juste que, en fait, c'est dommage, quoi. Et donc,
des monoproduits qui ont marché, effectivement, mais qui sont des effets de mode. Mais c'est vrai que, oui, c'est sincère, honnête, que ce soit bien les employés, les clients et même entre nous, enfin, en tant qu'associés. Et moi, ce serait aussi un petit mot pour toutes les femmes qui ont peur de se lancer, parce que nous, on a vachement eu ça de la grossesse. Vous verrez, quand ça va vous arriver, vous serez bloqué avec un enfant, deux enfants, trois enfants. Alors, on n'en a pas trois, on en a chacune, enfin, un et une. Mais du coup, c'est que c'est possible.
Ouais.
En fait, faut pas qu'une femme prenne peur en se disant « Oui, mais moi, si dans trois ans, je veux un enfant, comment je vais faire? Tout va s'arrêter. » En fait, c'est grâce à des femmes qui se lancent que les choses vont changer et que peut-être l'État, on aura des aides, parce qu'aujourd'hui, il y a presque aucune aide pour les femmes entrepreneuses qui tombent enceintes. Nous, heureusement, on est deux. Donc il y en a une qui prend le relais, mais quand vous, je sais pas, vous, vous êtes deux aussi. Mais genre quand t'es toute seule, je sais pas comment tu fais, mais il en faut et faut pas avoir peur. En fait, il y a un moment, faut arrêter de réfléchir et tout s'organise.
Faut pas réfléchir, tu t'organises, mais
en fait, enfin, sur le moment venu, vous trouverez des solutions. Et en fait, c'est la vie et en fait, ça marche et c'est grâce à des femmes qui se lancent et qui vont avoir des enfants dans des milieux qui sont complètement inadaptés à avoir des enfants que ça va changer. Il faut y aller quoi. Donc voilà, je pense qu'il faut pas trop réfléchir.
Voilà. Est-ce qu'il y a des bébés mamiches en gestation? Des nouveaux bébés mamiches?
Nous non, personne. T'imagines, j'aurais annoncé là, ça aurait été ouf. Non, mais on en a eu. Bah oui, là on a notre RH qui vient d'avoir un petit bébé. On a eu notre ancienne chef boulangère qui a eu deux bébés mamiches. On a eu un chef tourrier qui a aujourd'hui sa boulangerie à Souston, qui s'appelle Quentin, je sais pas comment elle s'appelle sa boulangerie. Quentin, qui a ouvert une super boulangerie à Souston et qui a eu un petit bébé aussi pile au moment où il la montait, donc je pense très costaud. Voilà, c'est tous les bébés mamiches, donc il y en a eu, enfin, et donc ça a marché. Et puis nous, le fait d'en avoir eu avant eux, parce que ils sont, enfin, Cécile a eu le premier bébé mamiche, ça nous a vachement appris à les aider, quoi. Ah non, c'est Anna, peut-être le premier bébé, c'est Anna. Et ça nous a, on s'est dit, ok, on l'a vécu, on sait ce que c'est, maintenant on va les aider à ce que ce soit possible aussi pour eux, quoi. Donc quand ils prolongent des arrêts, ben, en fait, on comprend et on dit, bah ouais, kiff, en fait, enfin, on aurait aimé le faire aussi, donc. Nous, c'est pas le cas. Au bout de deux mois, on était en pelote dans les fournils avec 1000 bébés dans les bras, mais c'était le jeu.
Et quels sont les futurs projets de...
Là, c'est traiteur, faire tout ce qu'on traiteur. A envie de faire, parce qu'effectivement, c'est que le début. Pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas traiteur. Est-ce que c'est pour les clients? Est-ce que c'est pour les entreprises? Donc, nous, on veut vraiment pérenniser la boutique, leur montrer que c'est facile de bien manger et qu'on facilite la vie des gens, des familles, des étudiants, de tout le monde, pour que bien manger soit un truc français, un truc bien fait, un truc maison. Donc, pérenniser ce commerce. Et après, ouais, non, on verra. Après, pour l'instant, on n'a pas d'idée précise. Mais là, on est un peu la tête dans le guidon là-dessus.
Et dernière question, je demande une recette. La recette mamiche facile à refaire à la maison.
Avec la pâte à pizza, c'est exceptionnel, non?
Ouais.
Ou non, en fait tout est facile au traiteur parce que vous achetez, vous avez plus qu'à réchauffer au four, donc c'est génial. Mais une vraie recette, c'est la pâte à pizza mamiche. Je pense que
vous vendez.
Vend la pâte à pizza vraiment qui a été faite dans la nuit avec du levain et tout ça, et vraiment, elle se garde que le jour J. On peut pas la congeler ni la garder parce que ça devient acide avec le levain. Mais toutes les personnes qui l'ont goûté, tous nos potes, et même moi, j'en ai fait la semaine dernière, première pizza à mon fiston. Genre, je l'y ai fait, et ça fait vraiment la grosse.
Alors, t'étales.
Et alors, il y a beaucoup de gens qui mettent de la farine, mais en fait, il s'avère que l'huile d'olive, c'est beaucoup plus facile. Vous mettez full huile d'olive sur une planche en bois. Vous l'étalez. Vous la laissez reposer un tout petit peu, genre 5-10 minutes, parce que elle va se redétendre. Et là, vous pouvez la réétaler encore plus. Du coup, ça fait un peu une pâte plus fine. Et puis là, bah, sauce tomate maison ou même pour ceux qui veulent aller vite, je sais pas, un concentré de tomate, je sais pas. Et moi, je mets juste du basique. Enfin, là, c'est pas la saison, mais huile d'olive. On peut mettre des anchois, des olives, du jambon, des champignons. Enfin, c'est. Et là, au four.
Combien de temps?
Moi, je mets très chaud. Faut juste que ça cuise bien au milieu parce que ça dépend des fours, mais faut s'assurer que ce soit bien cuit au milieu pour que ce soit bien croustillant partout. Et en vrai,
250 degrés.
Ouais. Moi, je mets bien de. Ouais.
Four très très chaud et vous baissez au moment où vous enfournez. Et moi, le petit truc qu'on fait, c'est que nous, quand on vous la donne, on met dedans des éclats. Voilà. En fait, on met de la farine mélangée à des éclats de maïs, c'est ça?
Non, c'est de la semoule.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait, il y en a dans le sachet de la pâte à pizza. Donc ça, vous la prenez, vous la mettez bien au bord sur les croûtes et ça fait un truc vraiment croustillant. Trop trop bon, quoi.
Et combien de temps au four?
Ça dépend des fours. 10, 15. Ouais. Ouais, moi j'aime très cuite moi, donc ouais. Mais nous on est team brûlé, enfin très très cuit quoi.
Merci
beaucoup.
Vous venez d'écouter l'interview des deux fous d'entrepreneuses Victoria Effantin et Cécile Kay de Mamiche. Pour goûter ce qu'elles ont dans leur poêle et dans leur four, rendez-vous dans leur boulangerie parisienne située rue Condorcet et rue du Château d'Eau, ou dans leur tout nouveau Mamiche traiteur rue Bouchardon près du marché Saint-Martin. Vous pouvez retrouver toutes les infos dans la description de l'épisode et évidemment les suivre sur Instagram sur leur compte Boulangerie Mamiche et Traiteur Mamiche.
Vous pouvez réécouter les précédents épisodes sur votre appli préférée ou sur le site agence-larelève.com et suivre À Poil Podcast et agence_larelève sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été monté par Garance Munoz, musique par Santiago Walsh. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode d'À Poil.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.